as I walk the narrow way, for the Comforter abides in me.
On the course.
He abides,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi.
And I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, car
je crois la main de Dieu dans ma vie. La raison de mon bonheur, son secret dans mon cœur, que le consolateur demeure en moi.
Il demeure,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis, je réjouis sur les trois chemins qui vivent, car le consolateur demeure en moi. Mon cœur était autrefois plein de péchés. Je n'avais pas de paix à l'intérieur jusqu'à ce que j'entende comment Jésus est mort sur l'arbre. Je suis tombé à ses pieds et alors il est venu avec une paix si douce. Le consolateur demeure en moi.
Il demeure.
Le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi.
Pensez-y,
il est partout avec moi, il connaît tous mes besoins. Je me sens heureux, libre comme l'air, car son esprit me contrôle, il satisfait tout mon âme, depuis que le consolateur demeure en moi. Il demeure, le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi. Je n'ai plus
foi,
il est partout avec moi, il connaît tous mes besoins. Je me sens si heureux et libre comme l'air, car son esprit me contrôle et satisfait mon âme, depuis que le consolateur demeure en moi.
Il demeure,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi.
Je n'ai
plus en moi la soif insatiable de ce monde. Depuis l'instant où j'ai tout abandonné, la nuit s'est changée en jour et les fardeaux m'ont quitté, car le consolateur demeure en moi.
Il demeure,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit, car le consolateur demeure en moi.
Il demeure,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi.
Loué soit le Seigneur.
Quel genre privilégié, nous sommes bénis.
Il demeure en moi, juste ici. Merci, Seigneur.
Il est avec moi partout, il connaît tous mes besoins, je suis. Je me sens heureux et libre comme l'air, car son esprit me contrôle et satisfait mon âme, car le consolateur demeure en moi.
Il demeure,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi.
Il demeure,
le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui lient, car le consolateur demeure en moi.
Est-ce qu'il habite en vous? vous, habite-t-il en vous? Loué soit le Seigneur. Oui, monsieur, il habite en moi. Il est en moi. Merci, Seigneur. Nous allons le chanter encore une fois. Il demeure. Il demeure. Alléluia, le consolateur demeure en moi. Je me réjouis jour et nuit sur les trois chemins qui vivent. Le consolateur demeure en moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. C'est une bonne raison de crier. Merci, Seigneur. Il habite en moi. Loué soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Loué soit le Seigneur. Je suis si heureux d'être ici avec vous ce matin. Je suis tellement heureux d'être ici dans sa présence. Nous remercions le Seigneur, car il demeure en nous. Quel message nous allons écouter ce matin? C'est rempli. Je parlais avec frère Jonathan et je lui disais, je ne peux pas croire que nous sommes ici en train d'écouter, que nous allons écouter l'Arche de la Philadelphie. Il couvre tellement de choses là-dedans. Oh, juste de penser que l'autre côté, nous allons encore parler de toutes ces âges de l'Église. Nous allons encore festoyer sur la parole, sur cette manne cachée, les révélations spéciales qui nous ont été données de ce septième ange messager. Amen.
Yes, sir.
Oui, monsieur.
Amen. Praise the Lord.
Oui, soit le Seigneur.
Amen. Thank you, Lord Jesus.
Merci, Seigneur Jésus.
Amen. What a blessed people
Quel
we are.
Quels gens privilégiés, bénis nous sommes.
If someone thinks that we're fanatical,
et si quelqu'un pense que nous sommes fanatiques, ben, loué soit le Seigneur.
Amen. I love it this way.
Je l'aime de cette façon. Loué soit le Seigneur. Je suis seulement heureux. Je suis en lui. Ça n'a pas d'importance. Alors, loué soit le Seigneur. Nous envoyons nos salutations spéciales à frère Joseph. Voilà, mais peu importe où tu es, que le Seigneur te bénisse. Cette église, nous tenons derrière toi. Nous sommes avec toi. Nous prions pour toi. Nous t'aimons. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Seigneur.
Amen. We also want to say,
nous voulons également dire, si frère Billy Paul est à l'écoute, probablement qu'il est, que le Seigneur te bénisse. Nous t'aimons également. Tu es spécial pour nous. Et vous savez, cela ne se fait pas mentionner si souvent, mais j'aimerais également dire à Sœur Valérie et Sœur Lois que nous vous aimons également et que nous prions pour vous. Nous ne comprenons pas et nous ne savons pas exactement à quoi vous passez à travers ou peu importe ce qui se passe, mais nous savons que lui, il sait et qu'il vous surveille. Il vous aime et il est entre vos mains. Il vous a entre ses mains et vous êtes spécial. Quels gens bénis nous sommes. Je pensais seulement à comment Frère Branham, quand nous avons commencé cette série, il a dit, j'aimerais prendre un autre sérou. Je ne me rappelle pas la façon dont il l'a dit. J'y vais seulement par la mémoire. Pardonnez-moi si ce n'est pas exactement de la même façon. Mais vous souvenez, il parlait de comment, oh, j'aimerais prendre un message ou une série sur la véritable vigne et la fausse vigne. Une fois que ceci est terminé, j'ai commencé à penser à ça du point de vue du commencement. Les doctrines du nicolaïsme et comment cela, ils ont apporté cela et comment les gens ont perdu leur premier amour. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce message? Comment est-ce que vous êtes venu dans ce message? C'était ultimement une seule chose, que vous avez entendu la voix de Dieu pour la première fois en appuyant sur play. Cette voix vous a attiré à ce message. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous a encouragé, qui vous a partagé, vous a parlé du message, et vous a parlé du messager. Mais c'est lorsque vous avez entendu cette voix, c'est ça qui a attiré votre attention. C'est ce qui l'a ancré profondément dans votre cœur à partir de ce moment-là. Et ensuite, c'est devenu votre absolu. Et c'est toutes les autres voix ne veulent plus rien dire pour moi. C'est le message de l'heure. C'est le prophète confirmé pour cet âge. C'est ce qui vous a attiré. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils se sont éloignés de leur premier amour. Lorsque vous éloignez des bandes, vous vous éloignez de votre premier amour. Vous êtes séduit avec une autre voix. Oui, oui. C'était une doctrine de les Nicolaitans. Et dans l'âge de la suite, ils sont devenus amers. Vous voyez que c'est vrai? Derrière cette fausse vigne qui est en train de se faufiler. Et c'était le mariage de l'État et de l'Église. L'épouse n'est pas intéressée, elle est mariée à la parole. Quand vous éloignez des bandes, lorsque vous éloignez de l'œuvre, vous devenez très malade. Et la seule façon de revenir, et de vous restaurer, c'est que vous devez retourner à cette voix et de rester avec cette voix sur les bandes et d'ancrer votre âme là-dessus. Et ça règle la question. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui arrive? Laissez-moi vous partager une citation. Frère Branham a dit dans l'âge de l'Église de Philadelphie, il a dit, quand l'épouse a été donnée, elle enlève son voile et la place sur les épaules du marié. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui, et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit ni aucune responsabilité. Et la clé de David, bien-aimé, c'est cela. Comme il est souverain, Dieu, par un décret divin, connaissait à l'avance très précisément ce qui ferait partie de son épouse. Il l'a choisi, ce n'est pas elle qui l'a choisi, il l'a appelée. Elle n'est pas venue d'elle-même. Il est mort pour elle. Il l'a lavée par son propre sang. Il a payé le prix pour elle. Elle lui appartient et n'appartient qu'à lui seul. Elle lui appartient complètement et elle accepte la responsabilité. Il est son chef, car Christ est le chef de son Église. De même que Sarah appelait Abraham Seigneur, ainsi l'épouse est heureuse qu'il soit son Seigneur. Il parle et elle obéit, car cela fait sa joie. Fin de la citation. Loué soit le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
So So the bride is married to
Alors
the
l'épouse
word.
Est mariée
and she's wholly committed
à la parole.
To that voice and
Elle
that
est
voice
seulement
alone.
Soumise à cette voix et cette voix seulement car c'est l'autorité, c'est la suprême autorité que Dieu a confirmée pour elle.
Then there was a doctrine of the Nicolaitans.
Et ensuite, il y a eu la doctrine des Nicolaïs, la doctrine de Balaam.
I'll just leave that alone.
Ah, je vais mettre ça de côté.
Then there was a Jezebel.
Ensuite, il y a eu Jézabel.
Yeah.
Oui.
She thought that she could interpret the
Elle
word.
Pensait qu'elle pouvait interpréter
remember,
la parole. Souvenez-vous, l'interprétation ne vient seulement qu'aux prophètes de Dieu.
They have, thus saith the Lord.
Ils ont l'ainsi dit le Seigneur.
And when they speak,
Et lorsqu'ils parlent, vous feriez mieux de faire attention, vous savez.
When you approach a prophet,
Quand vous approchez un prophète, vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites. Vous feriez mieux d'approcher ce prophète de la bonne façon.
If you get that special opportunity to
si vous recevez cette opportunité spéciale de parler à un prophète de Dieu, vous êtes dans le trouble. Premièrement, vous devriez mieux d'écouter et de ne pas y aller avec vos propres idées préconçues, car sinon vous allez rater la chose. Je me contrefous de ce que vous pensez qui est bien ou que ce que vous pensez qui l'est, combien vous avez étudié ou ce que vous pensez savoir. Vous feriez mieux de l'enterrer.
And when the answer comes,
et quand la réponse vient, quelquefois, et la plupart du temps, la majorité du temps, c'est totalement contraire à ce que nous pensons. Car Dieu n'a pas besoin de notre pensée. Il n'a pas besoin de notre aide, non, monsieur. Dieu le prononce et c'est tout. Alors, quand vous recevez cette réponse, continuez seulement à avancer cette réponse. Et peu importe que vous la compreniez ou non, cela va aller à la perfection parce que c'est Dieu. Alors, Jézabel pensait qu'elle pouvait interpréter la parole, mais l'interprétation de la parole vient seulement aux prophètes. Quand Dieu fait quoi que ce soit dans toutes les pages de cette Bible, il n'y a jamais eu un temps où il a fait quoi que ce soit qu'il n'ait pas utilisé un prophète pour le faire. Dieu ne change pas de programme. Amen.
Oh, praise the Lord.
Oh, loué soit le Seigneur. Rien ne peut nous séparer, l'épouse Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de ce message. Voulez-vous être restauré? Vous remplissez les vides, peu importe ce dont vous avez besoin ce matin. Peu importe si vous voulez être complètement restauré.
Do you want God to speak to you?
Voulez-vous que Dieu vous parle? Je vous garantis qu'il va vous parler aujourd'hui.
Because you will hear the voice
Parce que
of God.
Vous allez entendre la voix de Dieu.
That voice
Cette voix
is the only way
est la
for you
est le seul chemin pour recevoir votre guérison. Votre salut, le Saint-Esprit, que votre famille soit restaurée, pour vos bien-aimés soient amenés à l'intérieur. Peu importe ce dont vous avez besoin, que Satan vous a dérobé, la voix de Dieu est la seule voix pourvue pour vous la restaurer. Voulez-vous faire partie de la résurrection? Voulez-vous faire partie de l'enlèvement? Voulez-vous changer de corps? C'est la voix de Dieu qui va vous le donner. La commission donnée que l'ange a donnée à Frère Branham amène les gens à te croire. Et rien ne tiendra devant ta prière, même pas le cancer. Et cette commission s'applique à nous aujourd'hui même. Et je chevauche dessus. Amen. La condition n'a aucune importance. Je me contrefous de quelle condition vous êtes. La condition n'a pas d'importance.
The condition for us is,
la condition pour nous, c'est pour que ceci soit appliqué à notre cœur. Nous devons entendre le prophète de Dieu. Nous devons entendre le prophète de Dieu. Pas seulement nous devons l'entendre, parce que les gens vont dire, « Ah, j'ai fait que d'appuyer sur play. J'appuie sur play. Loué soit le Seigneur. » Mais je veux vraiment que Dieu me parle. Mais il vous parle, mais vous n'écoutez pas.
You've got to push play.
Vous devez appuyer sur play.
You've got to believe that
vous devez
prophet.
Croire ce prophète.
And then you've got to obey
et ensuite, vous devez
prophet.
L'obéir. Obéir ce prophète. Happen. Et ensuite, ça va arriver. Et cela, c'est la puissance de la manifestation. C'est l'Évangile qui est prêché dans puissance et en manifestation. Vous ne pouvez pas avoir l'Évangile prêché en puissance et en manifestation sans entendre la voix de Dieu. Amen. Loué soit le Seigneur. Pardonnez-moi ici. Je vais seulement prendre une minute de plus. Il va vous dire aujourd'hui que vous êtes une colonne dans le temple de Dieu. Et les colonnes ne bougent pas. Elles restent sur place. Et peu importe combien de vent souffle, vous êtes ancré. Vous avez la révélation. Vous avez la foi. Vous avez la victoire. La condition n'a aucune importance. Vous êtes ancré. Et il va manifester cette parole à travers vous et vous allez voir la parole vivante et en manifestation. Vous êtes une partie de la fondation des apôtres et des prophètes. Rien ne peut vous ébranler de cette position. Rien dans ce monde, aucune condition ne peut vous, en tant que croyant, faire bouger de votre position en tant que vous faites partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Je veux seulement vous partager une autre citation. Frère Branham a dit dans le message que vous allez entendre aujourd'hui, il dit, citation, « Je ferai de lui une colonne. Je vais le mettre dans la fondation de ma parole, dans la maison de mon Dieu. Oh là là! Je le mettrai là, dans cette colonne, dans la fondation où vous restez dans la parole. Amen. J'aime ça, mon frère. C'est bon. J'ai peut-être un comportement bizarre, mais je me sens bien, très bien. Fais de lui une, celui qui vaincra, ferait de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Qu'est-ce que c'est? C'est une colonne. Il ne sortira plus. C'est l'épouse. Fin de la citation. Il y a des gens aujourd'hui qui sont ancrés dans ce roc, ancrés dans ce message, et ils ne sortiront plus jamais. Et ces gens sont vous. J'aime tout simplement ça. Je dois m'arrêter. Une dernière chose. Et vous savez quoi? Satan va essayer de vous dire que vous êtes indigne, que vous ne le méritez pas, et toutes les erreurs, et la ligne continue comme cela et comme ça. Et autant que vous allez les écouter, il va vous parler. Et oubliez ça. Nous ne pouvons pas perdre le temps pour faire cela. C'est une bataille. Mais nous sommes, en tant qu'épouse, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes la... Ce n'est pas quelque chose que vous ayez fait, vous n'avez rien fait, moi non plus. Il l'a déjà fait pour nous. Amen. Il l'a déjà fait. Je suis seulement ici pour croire, pour écouter cette voix et pour obéir ce prophète. Et c'est fait. N'aimez-vous pas le Seigneur Jésus? Loué soit le nom du Seigneur. Il y a beaucoup de requêtes ici. Mais il l'a déjà fait pour nous. Loué soit le nom du Seigneur. Alors chantons-lui.
Balance et touche le Seigneur as he goes by. You will find he's not too busy to entendre ton cri. He is passing by ce moment. Your needs ton besoin. Rejoins et touche le Seigneur.
Inclinons la tête. Père, quel honneur c'est d'être ici ce matin pour te servir et d'être assemblé avec tes gens. Il faut nous guérir. Tu nous as sauvés. Tu nous as réconfortés. Tu nous as placés dans la parole. Quel honneur cela est, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et nous prions pour chacune de ces requêtes, Seigneur. Et nous demandons, Seigneur, et nous savons que nous avons reçu. Nous te remercions tellement, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour tous ceux que tu as déjà guéris. Nous te remercions pour Sir Collins. Et ses reins sont bien. Et frère Mike, il marchait de lui-même ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses, Seigneur, que nous prions que dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Reach out and touch the Seigneur as he goes by. You will find he's not too busy to entend our hearts cry. He is passing by this moment. Your needs to satisfy. Reach out and touch the Savior as he
vous asseoir.
What a blessing it is to be
quelle
here
bénédiction
this morning.
C'est d'être ici ce matin. Combien d'entre vous sont heureux d'être ici dans la maison du Seigneur? Combien seront heureux d'être avec lui?
Brother Branham said, there's no better place to be.
Il n'y a pas de meilleur endroit que dans la maison du Seigneur, sauf que d'être avec lui. Alors nous attendons à cela, et bientôt, et très bientôt, cela va arriver.
Soon and very soon, we are going to see the King. Oh, soon and very soon, we are going to see the King. Oh, soon and very soon, we are going to see the King. Oh, hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. And no more prayer là-bas, we are going to see the King. No more prayer là-bas, we are going to see the King. Oh, no more prayer là-bas, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King.
Tendre Père Céleste, comme nous sommes reconnaissants pour cette opportunité de se réunir dans ta maison, pour t'adorer, nous t'invitons, Seigneur. Nous prions que tu viennes et sois avec nous. Seigneur, nous prions que tu répondes à chaque besoin que chaque personne a. Et Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous entendons ta parole, de la mettre dans notre cœur et que nous puissions te connaître dans la puissance de la résurrection que tu as pour nous, Seigneur. Béni, sois avec nous, Seigneur, nous prions, et béni ces dîmes et ces offrandes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie.
Oh, soon and very soon, we are allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de maladies, nous allons voir le roi. Nous allons voir le roi. Oh, une maladie. Nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia. Nous allons voir le roi. Une main là-bas. Nous allons voir le roi. Nous allons voir le roi. Oh, il est là-bas. Nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia. Nous allons voir le roi.
And let's talk about Jesus.
Allons de Jésus.
The King of Kings is King.
Le roi des rois.
The Lord of Lords Supreme.
Le Seigneur des Seigneurs. Pour toute l'éternité.
Et grand je suis, le chemin, la vérité et la porte.
Allons de plus en plus
de Jésus.
La puissance et la majesté d'un nom si merveilleux. Le bébé de Bethléem, l'étoile du matin, chantons tous ses
louanges.
Parlons de Jésus. Sauveur du monde, cet homme de Galilée, le prophète, le roi, il est le Dieu puissant, le prix de l'eau de vie, prend le coup. Parlons de Jésus, il est la prince d'après. Le grand maître saint, tout au long de l'histoire. Le lys pur et blanc, la rose de savon.
Let's talk about Jesus, more and more. One more time.
Encore une fois. Parlons de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour toute l'éternité. Le grand je suis, le chemin, la vérité et la porte. Parlons de plus en plus de Jésus.
And As I travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me. He leads me safely through the sinking sand.
Il me conduit en toute sécurité à travers les sables mouvants. C'est le Christ du calvaire. Ceci est ma prière, cher Seigneur, que chaque jour, que tu m'aides à faire de mon mieux, car j'ai besoin de ta lumière pour me guider jour et nuit. Jésus béni, tiens ma main. Jésus, tiens ma main. J'ai besoin de toi tout le temps. Se bénit, protège-moi par ta puissance. Dans ma faible demande, ô Seigneur, regarde vers moi. Quand je tombe sur mes genoux, j'espère te rencontrer. Seigneur Jésus, tiens ma main. Laisse-moi voyager dans la lumière divine. Que je puisse voir le chemin béni. Garde-moi pour que je sois entièrement à toi et que je puisse chanter les chants de la rédemption un jour. Je serai un soldat courageux et vrai et toujours ferme dans ma position. Comme je vais de l'avant et fais face à tous les jours à l'ennemi, Seigneur Jésus, tiens ma main. Jésus, tiens ma main, j'ai besoin de toi tout le temps. À travers ce pays, protège-moi par ta puissance. Entends ma faible demande, ô Seigneur, regarde vers moi. Quand je tombe sur mes genoux, j'espère te rencontrer. Seigneur Jésus, tiens ma main. Quand je me promène dans la vallée vers où le soleil se couche, conduis-moi en toute sécurité dans une terre de repos. Si j'ai une couronne de vie à gagner, j'ai mis ma foi en toi, cher Seigneur, pour que je puisse atteindre le fil d'or. Il n'y a aucune autre amie sur qui je peux dépendre. Seigneur Jésus, tiens ma main. J'ai besoin de toi en tout temps. Traverse le pays, protège-moi par ta puissance. Dans ma faible demande, ô Seigneur, regarde-moi. Quand je tombe sur mes genoux, j'espère te rencontrer. Seigneur Jésus, tiens ma main. Jésus, tiens ma main. J'ai besoin de toi en tout temps. Ce pays, protège-moi par ta puissance. Dans ma faible demande, ô Seigneur, regarde-moi. Quand je tombe sur mes genoux, j'espère te rencontrer. Seigneur Jésus, tiens ma main. Yeah.
un jour ce sera. Merci Seigneur. Véritablement, Dieu est si bon. Pensez seulement à combien, comment il est bon pour nous. Merci, Seigneur. C'est seulement ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce. Viens seulement, Seigneur Jésus. Viens et parle à chacun des cœurs. Merci, Seigneur, pour ce message. Ce messager, c'est un message pour nous restaurer, pour restaurer toutes choses comme il était au commencement. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Chantons-le.
Oh, celui Oh,
God bless you. May
le Seigneur vous bénisse.
It's a great honor to turn this service now to God's
de mettre le service au serviteur et prophète messager pour ce jour, William Marion Branham, notre pasteur. Que le Seigneur vous bénisse.
Mon frère est allé me chercher une grosse tarte aux cerises. Je vous le dis, c'est payant de faire des allusions. Il m'a dit, que dis-tu de cela, frère Neville? Et voilà, voyez-vous? On dirait que la tarte aux cerises est en quelque sorte la favorite. C'est vraiment bon. Comme je l'ai dit, quand vous mangez une tarte aux cerises, parfois vous tombez sur un noyau. Maintenant, je ne jette pas la tarte, je jette le noyau et je continue à manger la tarte aux cerises. C'est ainsi que je veux que vous fassiez à propos de ce message. Quand vous frappez, avancez avec moi, quand vous frappez quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment digérer, eh bien, faites juste, ne jetez pas tout, jetez seulement cette partie, le noyau, et continuez à manger la tarte, une fois qu'on a appris, oui. Quand vous aimez le poulet frit, parce que tout le monde aime ça, alors quand vous mangez du poulet, vous frappez l'os, vous ne jetez pas le poulet, vous jetez seulement l'os, n'est-ce pas? Vous jetez que l'os, vous continuez à manger du poulet. Eh bien, nous sommes heureux parce que nous pouvons manger de la nourriture qui ne contient pas d'os ou de noyaux. Et pain descendait du ciel, appelé la manne, recouverte de la douceur du ciel. Vous savez, je crois que c'est David qui a dit « Un jour, c'est comme du miel dans le rocher. » Je crois que le poète a dit « C'était du miel dans le rocher. » Oh, mon frère, avez-vous goûté? Le voyez-vous? Dans le rocher. Le miel dans le rocher, mon frère, c'est comme ça. Maintenant, vous savez, je me suis demandé une fois que ce que là signifiait « miel dans le rocher » et je me suis dit « C'est peut-être qu'ils ont trouvé une ruche une fois dans un rocher. » Mais en étudiant cela, j'ai eu un peu d'inspiration. Pas au moment où je le cherchais, mais plus tard, j'ai découvert que chacun de ces bergers qui avait des brebis, il y a quelque chose à ce sujet, vous savez, notre corps est fait de la poussière de la terre. Tous les êtres vivants viennent de la terre. Il y avait ce berger qui croyait que la chaux aidait les brebis quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous savez, malade ou autre chose. Il voulait les faire lécher sur un rocher. Vous avez vu ces brebis faire ça? Aller lécher sur le rocher, et pour faire lécher les brebis sur le rocher, il versait du miel sur le rocher. Et ainsi, les brebis allaient lécher le miel, et puis ils léchaient aussi le rocher. Vous voyez, quand ils léchaient le miel, eh bien, nous avons un grand sac bien rempli de miel ici. Nous le mettrons sur le rocher, pas sur une église, sur le rocher. Jésus-Christ et vous, les brebis, allez lécher maintenant, et vous rétablirez aussitôt. Tous les péchés disparaîtront quand vous lécherez. Lécherez le rocher, c'est tout ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose de particulier dans un rocher qui a un effet de guérison. La guérison. Autrefois, avant d'avoir les piqûres de rage, ils avaient ce qu'ils appelaient la pierre folle. Lorsque quelqu'un se faisait mordre par un chien enragé, eh bien, on lui apposait cette pierre folle. Et alors, si la pierre folle, si elle restait collée à la pierre folle, il se rétablissait. Si elle ne collait pas, alors le patient était atteint à un stade trop avancé. Il allait mourir. Ainsi, c'est encore comme ça aujourd'hui. La pire morsure que je ne connaisse n'est pas celle d'un chien enragé, mais celle du diable. On a une pierre pour ça, le rocher des âges. Accrochez-vous simplement à lui. Tant que vous vous y accrochez, vous irez mieux. Et ne lâchez jamais prise et ne reculez jamais. Continuez à tenir bon. Tenez-vous-en à ça. Et vous vous en sortirez. Maintenant, avant d'entrer dans la leçon de ce soir, et nous voulons nous lever juste un instant, si nous le pouvons, pour un mot de prière. Vous n'êtes pas la sœur de Robert Doherty, n'est-ce pas? Elle m'a appelé hier soir, je crois que c'était hier, et elle disait qu'elle voulait compris pour elle, et je ne savais pas, vous lui ressemblez, je ne savais pas si c'était elle ou pas. Je vous ai vu ici hier soir. Maintenant, combien voudraient qu'on se souvienne d'eux devant Dieu, ou plutôt que Dieu se souvienne de vous? Juste, notre Père Céleste, comme le chantait notre petit conducteur de chant à Chicago, « Souviens-toi de moi quand mes larmes coulent. Seigneur, souviens-toi de moi maintenant, à l'heure de la mort. » Dans le tout au long de la vie, nous voulons que tu te souviennes de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, non pas en tant que pécheurs, ce que nous sommes, mais nous voulons que tu te souviennes de nous en tant que chrétiens de confession, que nous avons accepté Jésus-Christ, ton Fils et notre Sauveur. pour notre être notre propriation pour nos péchés. Cela, nous le savons, c'est la seule chance que nous avons, la seule route, le seul moyen de salut. Ce n'est pas par l'intermédiaire d'une église ou de tout autre dispositif mécanique ou d'une organisation, mais par Jésus-Christ et lui seul. Nous nous approchons donc en son nom ce soir et nous te demandons de nous bénir alors que nous nous rassemblons pour étudier ta parole et pour connaître ce que tu as en réserve pour nous ce soir, pour que nous puissions développer nos corps spirituels en une église vivante, une église où tu pourrais vivre, entrer et te sentir à l'aise, marchant parmi ton peuple, nous disant quoi faire et savoir que nous le ferions tout de suite. Et nous t'aimons, Père. Mais nous savons que nous ne sommes pas encore tout à fait en état que tu puisses parler à travers nous comme tu le souhaites. Nous prions donc pour que tu puisses circoncire, c'est-à-dire que tu coupes toutes ces sottises, tout le surplus de chair loin de nous ce soir, afin que nous soyons entièrement consacrés à toi, que tu puisses nous utiliser à tout moment. Nous prions pour que ce moment ce soir, Père, et que tu nous utiliseras pour faire sortir ces pépites de la Bible, les polir et laisser les gens voir le reflet du Christ dans ce grand âge de l'Église. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bon, nous avons eu les âges de l'Église maintenant jusqu'à l'âge de l'Église de ce soir, qui est le sixième âge de l'Église. Demain soir, les âges de l'Église seront terminés. Nous en avons pris un chaque soir, du lundi au dimanche. Et ce soir, l'âge de l'Église s'appelle l'âge de l'Église de Philadelphie. Et l'étoile, ou le messager, l'ange messager de cet âge de l'Église, nous croyons solennellement de tout notre cœur que c'est John Wesley. L'âge de l'Église a commencé en 1750, lorsque l'âge de l'Église luthérienne s'est éteint, et il a duré jusqu'en 1900 vers 1906 après Jésus-Christ. L'âge de l'Église wesleyenne. Et puis cela a introduit l'Odyssée. Et maintenant, cet âge est l'âge de l'Église de l'amour fraternel. Le grand âge missionnaire est l'âge de la porte ouverte. Et la récompense était une colonne. Fais de lui une colonne. Et la révélation de trois noms. Le nom de Dieu, le nom de la cité de Dieu, et le nouveau nom de Dieu. Et la révélation qui a été donnée à cette Église dans cet âge. Et maintenant, l'Église... Cet âge commence dans Apocalypse 3:7 jusqu'au verset 13, et le verset 13 inclut Apocalypse 3:7-13. Ainsi, nous avons revu ceci un peu le soir en revenant en arrière, et le premier âge de l'Église, c'était l'âge de l'Église d'Éphèse. Quelqu'un peut-il d'emblée qui était l'ange ou la lumière, le ministre de l'âge de l'Église? Paul, l'âge de l'Église d'Éphèse, de 55 à 170 après Jésus-Christ. La raison pour laquelle j'ai pris l'âge, l'an 55, c'est quand il a commencé son voyage missionnaire et c'est alors qu'il a fondé l'Église d'Éphèse et les différentes églises dans les environs. Très bien, le deuxième âge de l'Église était Smyrne. Quelqu'un se souvient-il? Ce qu'était l'âge de l'Église, quelqu'un de la classe? Irénée, c'est exact. D'accord, c'était de 170 à 312. Le troisième âge de l'Église était l'âge de l'Église de Pergame. Quelqu'un se souvient-il dans la classe qui était le saint de l'âge de l'Église? Saint Martin, c'est exact. De 312 à 606. Et l'âge de l'Église suivant a été celui de Thyatire. Quelqu'un se souvient-il du saint et du messager, ange de cet âge-là? Colomba, c'est exact. Et c'était de 606 à 515. Le suivant, c'était l'âge de l'Église de Sardes. C'était hier soir. Et n'importe qui, bien sûr, vous savez ce qu'était l'ange de l'Église à cet âge-là? Vous vous rappelez? Martin Luther. Et puis le sien était de 1520 à 1750. Et ce soir, nous sommes à l'âge de l'Église de Philadelphie, qui est John Wesley, le messager de ce jour-là, de 1750 à 1906 après Jésus-Christ. et c'est l'âge de l'amour fraternel. Et nous découvrons que chacune de ces églises, ces âges de l'Église, exprimaient la caractéristique de cette Église. Ça identifiait ce qu'était l'Église et les caractères de l'Église, la caractéristique plutôt de l'Église. Bon, hier soir, c'était Martin Luther. La raison pour laquelle je reçois ça et que les garçons le mettent sur bande, j'étudie toute la journée et vous dites toute la journée sur le peu d'histoire que vous me donnez ici. Non, les points historiques seront dans le livre, vous voyez. Ceci ici, la raison de venir ici, c'est de prendre ces choses par inspiration devant vous et nous réunissions pour en tirer la partie inspirante. L'histoire, je peux lire ça dans le livre, mais c'est ici que je cherche l'inspiration, puis nous la reprenons sur la bande, puis nous avons dans le livre, alors nous aurons à la fois les données historiques de celui-ci et aussi l'inspiration que le Saint-Esprit nous a donnée pendant que nous sommes ensemble ici, dans ces lieux célestes, en Jésus-Christ. Et je crois que ça devrait faire un petit commentaire frappant sur ces âges de l'Église. Et que le Seigneur accorde ses bénédictions à cela. Bon, hier soir, l'âge de l'Église de Sardes, en grec, il était réellement appelé le rescapé. Mais je crois que dans la traduction anglaise, c'est mort. Or, c'était à la fois une église morte et rescapée. Parce que c'était l'église qui était morte sous le règne papal en 1500 ou 1520 du grand règne papal que nous appelons l'âge des ténèbres, où le christianisme était à son déclin le plus bas qu'il ait jamais été ou ne sera jamais, même à l'âge de l'Église de Laodicée. Maintenant, il y a une des choses frappantes, cependant, garder à l'esprit que ces âges de l'Église commencent et tout ce qui est dans cet âge de l'Église, cela descend dans chaque âge de l'Église et chacun des âges de l'Église se chevauche les uns sur les autres. Si vous étudiez l'histoire de près avec les livres, vous le découvrirez. Ça se chevauche comme ceci, l'un sur l'autre, et un âge d'Église sort et l'ange qui vient entre les suites, les deux, va rappeler cette Église à la foi qu'elle a perdue. Ça a toujours été comme ça. Regardez Jude, le dernier livre de la Bible, voyez, jusqu'à ce que vous arriviez à l'Apocalypse. Jude a dit, je vous ai écrit pour que vous combattiez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le chevauchement entre les apôtres et la venue de l'Apocalypse, car la plupart des apôtres étaient alors morts, vous voyez, ils n'étaient plus. Celui qui était vivant à cette époque, c'était Saint Jean le divin, qui est le révélateur ou l'écrivain qui a reçu la révélation venant de l'ange du Seigneur pour écrire le livre de l'Apocalypse. Donc, vous voyez, ils se chevauchent les uns sur les autres. Alors maintenant, je suppose que vous l'avez remarqué et que vous l'avez saisi en avançant, comme j'étais en train de le mentionner, que même ici, dans l'âge de Sardes, c'était l'âge du mariage. En fait, l'Église n'avait jamais vraiment vu le jour complètement avant Thyatire, mais elle s'est mariée à Sardes. Et Sardes signifie être dans un mariage. Maintenant, si vous remarquez qu'elle s'était mariée ici et qu'il y avait un chevauchement dans cet âge-là, et remarquez que Luther, hier soir, est sorti avec le nom mort, un nom de mort, et ensuite le rescapé. Vous voyez, il y avait l'Église morte qui venait d'ici et la fuite du petit reste qui est sorti dans cet âge ici. Et ce soir, comme nous finissons l'âge de Philadelphie, cela introduit le commencement de l'âge de Laodicée. Et demain soir, quand il sortira juste à la fin, vous remarquerez que l'ange apparaît juste à la fin des temps, et juste à la fin des temps, pour réprimander l'Église d'avoir perdu son premier amour et de s'être éloigné de Dieu, comme ils l'ont fait là-bas au travers des âges. Et alors, l'enlèvement a lieu pour ramener l'Église à la maison. L'Église monte juste au temps du message. Donc, nous approchons maintenant de cet âge. Avez-vous compris cela? Très bien. Voyez, juste au moment où l'ange de l'Église, le messager de l'âge, arrive pour les réprimander d'avoir perdu leur premier amour, essayer de les ramener. La même chose que le messager fait ce soir, l'ange messager. revient pour les réprimander à chaque âge comme cela pour ce qu'ils avaient fait. Donc, ça fait un chevauchement dans chacun des âges de l'Église. Ils se chevauchent l'un sur l'autre comme ça. C'est comme monter une marche. Ça se chevauche comme ça en montant. Maintenant, je n'ai ici qu'une petite partie de l'histoire du messager de ce soir sur John Wesley. John Wesley était l'étoile de l'âge. Il est né le 17 juin 1703 à Epworth Rectory en Angleterre. Il était le 15e enfant de 19 enfants. John et Susanna Wesley, son père et sa mère. Son père, un prédicateur. Sa mère, une sainte consacrée. Bien qu'elle avait 19 enfants à sa charge, elle trouvait beaucoup de temps pendant sa journée pour bien remplie, pour enseigner à ses enfants des leçons et des histoires bibliques et pour prier pour eux. C'est ce qui a fait de ces garçons ce qu'ils étaient. Le grand auteur-compositeur Charles, son frère, qui a donné au monde des chants parmi les plus inspirés que nous ayons jamais eus. John était associé à George Whitefield. John Wesley et George Whitefield ont vraiment été les premiers fondateurs de ce méthodiste ou de la sanctification. John se levait tôt tous les matins. Pendant 60 ans, il se levait tous les matins à 4 heures. C'est une chose que l'Église a perdue. Il se levait tous les matins à 4 heures et prêchait à 5 heures du matin pendant 50 ans d'affilée. Et parfois, il prêchait 2 à 4 fois par jour. Il est dit par les gens en Angleterre qu'il parcourait 4 500 000 Anglais chaque année pour prêcher l'Évangile. 4 500 000 sur un... Ce sont des 1000 Anglais, vous savez, ils sont plus longs que les nôtres, pour prêcher l'Évangile. Beaucoup de livres le concernant comportaient de mauvais propos sur lui à son époque, le ridiculisant, se moquant de lui. Mais on les a oubliés depuis longtemps maintenant, tout comme leur auteur. Vous ne pouvez pas faire du mal à un enfant de Dieu et vous en sortir. Vous perdez votre temps. Dieu va les faire passer à travers de toute façon. On l'appelait méthodiste à cause de sa façon de faire les choses. Il est dit de son vivant qu'il a prêché plus de 40 000 sermons. Pensez-y. 40 000 sermons. Puis après son départ, en 1791, la dénomination méthodiste a pris ses racines dans le monde et a fondé l'Église méthodiste. Puis, bien sûr, Asbury et bien d'autres étaient là à l'époque. Maintenant, si nous remarquons la salutation à cette Église, comme nous allons commencer maintenant au verset 7, le messager de Philadelphie, la véritable Église, dans la véritable Église, dans l'Église qui professait, c'était une véritable Église qui professait. À l'ange de l'Église de Philadelphie, écrivez, j'ai attiré votre attention sur le chevauchement de chacune d'elles maintenant. Maintenant, vous arriverez ici, l'ange, si vous regardez la façon dont il a apporté l'ange méthodiste qui chevauche et qui déborde un peu dans Philadelphie ou dans la Odyssée, l'ange pentecôtiste. Puis demain soir, le messager de la Pentecôte revient les réprimander d'être tombés, tout comme cet âge les a réprimandés d'être tombés ici, dans Sardes, dans l'âge luthérien, le chevauchement. L'amour fraternel, ça a été un grand âge de missionnaires et de missions. Le monde n'a jamais vu un jour comme cela. Cela continue même dans notre temps maintenant, où le monde n'a jamais eu un temps avec autant de missionnaires partout. Au cours des 150 dernières années, cela a été l'un des moments les plus marquants de l'histoire du monde pour les missionnaires qui se sont rendus dans toutes les parties du monde avec l'Évangile Cela a été pour ce qui est de littéralement seulement d'y aller, d'envoyer le message de l'Évangile sur du papier, des tracts et des livres, et ainsi de suite. L'Évangile est allé depuis longtemps à toutes les nations sous le ciel, depuis longtemps. Alors, vous voyez, c'est la preuve que ce n'était pas de ça que Jésus parlait. Il n'a jamais dit « Allez dans le monde entier et faites des écoles bibliques ». Il n'a pas dit non plus « Allez dans le monde entier et distribuer de la littérature ». Ces choses sont bonnes. Mais sa commission pour l'Église était « Allez dans le monde entier et prêcher l'Évangile ». Et l'Évangile ne veut pas uniquement dire la parole, mais c'est de faire vivre la parole. Voyez? Parce que Jésus a dit « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». Vous savez? Marc 16, sa dernière commission à l'Église était « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». Sa première commission à l'Église dans Matthieu chapitre 10 était « Guérissez les malades, ressuscitez les malades, les morts, chassez les démons, comme vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Son dernier message à l'Église était « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». N'est-il pas étrange qu'il y en ait beaucoup qui retranchent cette partie-là et est une conjonction qui relie votre phrase, vous voyez? Maintenant, il a dit, beaucoup de ministres vont dire, allez prêcher l'Évangile. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné, et ces signes les accompagneront. Ils les accompagneront, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils guériront. Signe du Dieu vivant qui agit parmi les gens. Oh, jusqu'où? Le monde entier. Vous saisissez? Le monde entier. C'est pourquoi quand je dis que le message de la Pentecôte, pas l'organisation pentecôtiste maintenant, le message de la Pentecôte est le seul véritable message de Dieu. Maintenant, regardez. Marc 16, si vous lisez de là, c'est bien. Ici même, Jésus a commissionné son Église. Allez dans le monde entier, prêcher l'Évangile, ses signes, parler en langue, guérir les malades, opérer des miracles. Jusqu'à quand? Le monde entier. Combien de personnes à toute la création? C'est du début jusqu'à la fin ici, jusqu'à la consommation. Très bien. Ces signes accompagneront seulement cette Église, ceux qui auront cru dans le monde entier. Le monde entier, à toutes les créatures, ces signes les accompagneront. Pas ceci, ceux qui auront cru. C'est donc une Église de la Pentecôte, vous voyez? Maintenant, nous avons pris dans cet âge, ici même, où nous sommes ce soir sur Philadelphie, P-H-I-L, l'âge de l'Église de Philadelphie, dans cet âge-là, qui a évangélisé et a été missionnaire dans tout le monde en entier avec de la littérature, Jésus a dit, quand cet Évangile sera prêché, cet Évangile sera prêché au monde entier pour me servir de témoignage, alors la fin viendra. Eh bien, alors, si c'était de cela qu'il parlait, de distribuer de la littérature, d'envoyer des missionnaires avec de la lecture, des écrits, de l'arithmétique, et de distribuer des tracts et de donner une poignée de main aux gens en leur faisant croire qu'il y a un Dieu, si c'est tout ce qu'il en était, alors sa venue aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Oui, cela montre donc que l'Évangile, Paul a dit, l'Évangile n'est pas venu en parole seulement, mais par la puissance et les manifestations du Saint-Esprit. Et Jésus dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. Et il a dit, allez dans le monde entier et démontrez. Oh, j'aime cela. Démontrez la puissance de l'Évangile. Prendre la parole, ce qu'elle dit, et montrer aux gens ce qu'elle dit, et ensuite la leur manifester. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça en fait la preuve. Oh, quand le grand Maurice Redhead était dans ma chambre ce jour-là, le président de la mission de Soudan, la plus grande au monde, quand il a dit, « Frère Branham, Toi qui es baptiste, tu devrais savoir ce qu'est la vérité. J'ai dit, la Bible est la vérité. Il a dit, eh bien, il a dit, qu'est-ce que ces pentecôtistes sont? J'ai dit, le Saint-Esprit, voyez. Et alors, il a dit, je les ai vus déchirer les meubles et donner des coups de pied sur les objets. J'ai dit, oui, la seule chose qu'il y a, c'est que vous restez en retrait et vous vous isolez d'eux. Ils ont beaucoup de vapeur. Ils faisaient tourner la roue, ils faisaient quelque chose, mais ils l'ont tout fait sortir, vous voyez. J'ai dit, s'ils l'avaient juste fait passer par ici, ils auraient des signes, des produits, des miracles et tout. Mais ils ne savent pas quoi en faire. Il faut que ça aille quelque part. Alors, ils le font sortir par des cris et ils l'évacuent. Je préfère le souffler plutôt que de le retenir et ne pas avoir de vapeur à souffler, pas vous? Comme le vieux avait l'habitude de dire, je préfère avoir peur d'un feu de forêt, je préfère un peu de feu de forêt que je ne pas en avoir du tout. Le problème aujourd'hui, nous essayons de peindre un feu. Et nous disons, tu sais, il y a longtemps, au temps de la Pentecôte, ils ont fait cela. Maintenant, à quoi bon montrer un homme qui gèle, c'est-à-dire qui meurt de froid, la peinture d'un feu? Ça ne va pas l'aider du tout, non? Il doit avoir le feu lui-même. Et s'il y a une puissance de Dieu qui a fait que les gens de la Pentecôte ont œuvré pour le Seigneur et ont fait les œuvres et les signes qu'ils ont faits, s'ils ne font pas que peindre un tableau, mais que vous leur apportez le tableau en réalité, ils auront la même expérience, le même salut, selon leur propre témoignage comme ils l'ont fait. Vous voyez, mais vous devez leur apporter. Il ne faut pas le remettre à une autre génération, mais l'amener ici. Or, nous découvrons que cet âge de l'amour fraternel est un grand âge missionnaire. Jésus a dit dans tout le monde et à toute la création, et ces signes les accompagneront. Maintenant, comme nous avons parcouru l'histoire et par la Bible, je veux vous demander, n'est-ce pas, que chaque nuit, nous lisons dans la Bible ici ce que Jésus a dit à Jean, qu'il arriverait, et juste ici, nous avons pris l'histoire et prouvé que cela s'est produit, très exactement. Et c'est la raison pour laquelle cela m'a pris tant de temps à chercher ces hommes pour voir où c'était ce serviteur de Dieu qui a transmis ce message jusqu'au bout. Mais il était là, tout comme la Bible l'a dit. Il a gardé le message tout comme il était au commencement, il ne l'a jamais modifié. Et alors nous avons vu qu'elle était presque éradiquée, qu'il appelait ce même âge, l'âge mort, sombre et tout, et puis un peu de lumière en est sortie, puis un peu plus de force, et puis c'est entré dans la Pentecôte, la véritable expérience de nouveau, à la fin des temps, et alors les est enlevée, et elle est partie, et la tribulation se réinstalle très bien, la grande tribulation qui éprouvera le monde entier. Or, le grand âge missionnaire, l'amour fraternel, l'âge des missions, permettez-moi de vous nommer quelques-uns des grands hommes, et je viens d'écrire leurs noms ici. John Wesley, George Whitefield, environ vers 1739, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, le grand missionnaire parti en Inde en 1773, David Livingstone en Afrique du Sud, voyez, tous ceux-là, certains de ces grands hommes, j'ai des noms de beaucoup d'entre eux ici, de grands hommes qui vivaient dans cet amour fraternel que l'homme noir, l'homme blanc, l'homme brun, l'homme jaune, tous les murs ont été démolis et ces hommes sont partis dans les champs de mission. L'amour fraternel, tendant la main à toutes les nations partout dans le monde. Et cela leur était ouvert pour qu'elles puissent y aller. Un autre âge de la porte ouverte, parce qu'ils ne pouvaient pas, avant cela, ils ne pouvaient pas le faire. Le papal et la papauté de Rome, et ainsi de suite, avaient tout fermé au point où ils ne pouvaient pas y aller. Mais dans cet âge-là, les portes ont été ouvertes, parce qu'il a dit que c'était l'âge de la porte ouverte. Ils ont ouvert beaucoup de portes pendant cet âge-là. La porte de l'Évangile, la porte des champs de mission, la porte du retour à Christ, et tout a été ouvert pendant cet âge-là. Et vous pouvez voir ce qu'ils ont fait. Les frères ont fait du bon travail. Et de John Wesley, l'étoile, après l'âge de Sardes, après qu'il soit venu réveiller, ceux de l'âge de Sardes, depuis 150 ans, de grands missionnaires. Comme jamais auparavant, dans aucun autre âge, ont couvert la terre entière. Pensez-y. Toutes les nations sous le ciel ont entendu la parole. Cela a été achevé il y a bien, bien, bien des années, voyez. Mais pas l'Évangile, juste la parole. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez. Lorsque j'étais en Afrique du Sud ce jour-là, sur la plateforme, et que j'ai vu qu'il y avait des milliers de musulmans qui étaient présents, des musulmans. Et j'ai rencontré un missionnaire musulman, et ce missionnaire musulman a dit, Oh, pour cette âme précieuse. Or, cet homme était là-bas depuis des années et des années, et il avait converti un seul musulman à Christ. Parce que les musulmans sont issus des Mèdes et Perses. Car leur loi ne change pas ou ils ne les modifient pas. Quand ils sont musulmans pour toujours. Donc là, ils ont eu cet âme dont parlait ce frère qui se tenait là dans la cour de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. C'est dans l'État libre. L'État libre, l'État orange, et c'est dans le Transvaal. Et nous sommes partis de là pour nous rendre à Cape Town et à Bloemfontein. Et sur le chemin, et nous sommes revenus à Grahamstown et à l'est de Londres. Et par la suite, nous sommes retournés à Johannesburg après avoir quitté Cape Town. Et nous avons remonté par la côte. Très bien, la dernière ville où nous sommes allés était Durban, et nous avons rassemblé la plupart des indigènes. Il y avait 150 ou 200 000 indigènes assis là, des musulmans, des indigènes. Ça prend des semaines que Churchill Downs, le deuxième plus grand au monde, Londres, a le plus grand d'Afrique du Sud, et Churchill Downs, puis ils avaient des clôtures parce qu'ils avaient la guerre entre les tribus et la police. 200 ou 300 gardes se tenaient là poussant chacune des tribus à l'intérieur des clôtures pour qu'elles ne se battent pas entre elles. Et ils les désarmaient avec leur lance et leur azagé, et ainsi de suite, qu'ils avaient apporté. Assis au sol, ils se regardaient les uns les autres au travail des clôtures et les guerres entre les tribus. Leur chef debout. Leur chef debout les conduisait, quelqu'un avec une grande chose pour faire du vent, les éventait comme ça, et les reines, la reine de Rhodésie est venue avec 27 wagons ou cortèges ou autocars, plein de gens de Rhodésie, pour assister à la réunion, et un cortège spécial est venu. L'Éternel faisait de grandes choses, de grands prodiges et de grands miracles. Et qu'avons-nous trouvé? Sidney Smith, le maire de Durban, en sortant ce jour-là, j'ai dit, c'est quoi cette personne? Cette petite étiquette autour de son cou, un homme de couleur, comme on l'appellerait ici, la race noire. C'est pour eux que j'étais là-bas pour prêcher. Et beaucoup d'entre eux ne portaient aucun vêtement, rien du tout, homme ou femme. Alors, ils avaient une idole dans le bras et une étiquette dans le cou. J'ai dit, que sont ces étiquettes dans leur cou? Il a dit, ce sont les chrétiens. Il dit, les chrétiens? Avec une idole à la main? Il a dit, bien maintenant, frère Branham, c'est un Shungai. Il a dit, je peux parler sa langue. Il a dit, on va aller là-bas et tu vas lui parler. Nomme-le comme tu veux. Parle-lui de la même manière que tu aurais posé une question. Je lui poserai et je te dirai ce qu'il a répondu. Alors j'ai dit, comment allez-vous, Thomas? Je l'ai appelé Thomas parce que je trouvais que c'était un nom approprié. Et j'ai dit, comment allez-vous, Thomas? Il m'a regardé et j'ai dit, êtes-vous chrétien? Oui, il était chrétien. J'ai dit, oh, bien sûr, il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu. Aucun d'entre eux ne nous avait encore jamais vu. J'ai dit, que faites-vous avec cette idole? Au son père la trimbalait, vous voyez? C'était Dieu, vous voyez? J'ai dit, est-ce que votre père l'a trimballé? J'ai dit, eh bien, c'est pas une raison pour vous que la trimballiez. Vous êtes un chrétien, vous ne devriez pas la trimballer. Il a dit, eh bien, un jour, le lion s'en est pris à son père. Et il a fait un petit feu. Il a dit la prière que le sorcier lui avait dit de faire. Et cette idole, et l'idole a chassé le lion. Les animaux tuent beaucoup d'entre eux là-bas, vous savez. Et j'ai dit, ce n'est pas la prière que le sorcier t'a dit. C'est le feu qui a fait fuir le lion. J'ai dit, le lion a eu peur du feu. Et j'ai dit, en tant que chrétien, Thomas, tu ne devrais pas trimballer ça. Tu ne devrais rien avoir avec ça. Il a dit, oh, eh bien, il a dit, si Amoya, c'est la force invisible, notre Dieu que nous ne voyons pas, Amoya signifie quelque chose, une force comme le vent. Il a dit, si Amoya échoue, ceci n'échouera pas. Alors, il les trimballait tous les deux. Si l'un ne marche pas, l'autre marchera. Maintenant, voilà la force du christianisme. Oui, oui. Oh là là. Mais cet après-midi-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la réunion dans l'hippodrome, il a commencé à révéler les secrets du cœur après que j'ai eu pris l'Écriture. Après environ une heure où cela m'a, dans les faits, pris 15 minutes parce que cela devait passer par 15 interprètes différents. Alors, je parlais ainsi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et celui-ci disait, ah, blablabla, et celui-ci disait, glou, 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 comme ça, tout cela signifiait Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, des interprètes, et je devais prendre en note la dernière chose que j'avais dite. Je n'aurais pas su où j'en étais, puis attendre qu'il ait fini. Et quand c'était mon tour à nouveau, j'ai dit, maintenant, maintenant, le missionnaire vous a parlé d'un Jésus qui est venu pour vous sauver. On pouvait les voir se regarder les unes les autres. Vous savez, les différentes tribus de haut en bas comme ça. Le missionnaire vous a dit cela, mais est-ce que ce missionnaire, en lisant ce livre, avez-vous vu là où il était un grand guérisseur et où cela dit qu'il vivrait à travers les âges, dans les gens, jusqu'à ce qu'il revienne? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi? Vous qui avez accepté le Christ comme votre sauveur avec ses étiquettes, aimeriez-vous voir Jésus revenir ici aujourd'hui et marcher parmi les gens et faire la même chose qu'il a faite quand il était ici sur Terre? Oh, tout le monde, bien sûr, il voulait voir ça, vous voyez, c'est ce qu'il voulait. Alors, s'il le fait et il nous utilise ici pour faire ce qu'il a fait quand il était ici sur la terre, croirez-vous en sa parole? Oh, bien sûr, vous voyez, c'était des musulmans assis là. La première, la deuxième personne sur la plateforme était une femme musulmane. Le Saint-Esprit a parlé. J'ai moi-même dit à la femme, j'ai dit maintenant, vous savez que je ne vous connais pas, je ne peux même pas parler votre langue. Et elle l'a admis. Elle avait un point rouge entre les deux yeux, ce qui signifiait qu'elle était un pur sang parmi les musulmans. Alors j'ai dit, eh bien, maintenant, pour ce qui est de vous guérir, je ne peux pas vous guérir. Mais j'ai dit, avez-vous compris ce que j'ai dit cet après-midi, le message? Elle a répondu à l'interprète musulman que c'était une Indienne, c'est ce qu'elle était. Elle a dit oui, qu'elle a compris. Et elle avait lu le Nouveau Testament. Oh oui, oui. Vous voyez, eux aussi croient en Dieu. Ils sont aussi la semence d'Abraham, vous voyez. Mais elle a dit qu'elle croyait en Dieu, mais qu'elle croyait que Mahomet était son prophète. Et nous croyons que Jésus était son fils, vous voyez. Donc elle a dit, oh, elle croyait en Dieu. Je dis, alors, si vous connaissez l'Ancien Testament et si vous savez ce qui était dans les hommes du passé, dans les siècles passés, alors Jésus, celui que nous appelons le Christ, devait être le Dieu prophète. Ils l'ont tué. Vous pensez que non, parce que vous avez dit qu'on vous a dit qu'il est monté sur un cheval d'Inde, qu'il est parti. C'est ce que vous enseigne votre prêtre, qu'il n'a jamais été tué et qu'il est mort d'une mort naturelle quelque part ailleurs des années plus tard. Je dis, vous croyez cela? Mais ce Jésus, le chemin selon le Nouveau Testament, il est mort, il a ressuscité, et il a renvoyé son esprit sur son Église. Maintenant, vous les avez, voyez? C'est exactement avec ça que les musulmans ont défié Billy Graham. La même chose, le même principe. Je dis maintenant, si Mahomet ne vous a jamais fait de promesse, mais Jésus nous a fait une promesse que les mêmes œuvres qu'il a faites, nous les ferions aussi. Maintenant, vous vous souvenez qu'il a dit dans Saint Jean 5,19, « Je ne fais rien sans que le Père me le montre. » J'ai dit maintenant, si Jésus vient et me montre quel est votre problème ou pourquoi vous êtes ici, vous dit ce qui vous est arrivé, quel était votre passé et quel sera votre avenir, et s'il peut vous dire quel était votre futur, votre passé, certainement que vous croirez quel sera le futur. Elle a dit, c'est vrai. Vous voyez, par l'intermédiaire de l'interprète. Et j'ai dit, très bien, puisse-t-il le faire? Et tous ces musulmans qui se levaient en regardant, vous savez, et quand le Saint-Esprit a dit, ton mari, un petit homme corpulent, avec une moustache noire, vous étiez chez le médecin il y a environ 3 jours, j'ai dit, vous avez 2 enfants, il vous a fait passer un examen gynécologique, il a dit que vous aviez un kyste dans l'utérus. Elle a baissé les yeux, incliné la tête, et il a dit, c'est la vérité. Je dis maintenant, si vous lisez le Nouveau Testament, est-ce que c'est comme Jésus-Christ qui l'a dit à la femme au puits? C'est vrai. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi êtes-vous venu à moi comme une chrétienne? Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir votre prophète musulman? Elle a dit, je pense que vous pouvez m'aider. J'ai dit, je ne peux pas vous aider, mais si vous acceptez ce Jésus qui est ici maintenant, qui connaît votre vie et qui sait tout de vous, il vous aidera. Elle a dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Et voilà. C'était réglé. 10 000 musulmans sont venus à Christ cet après-midi-là, voyez. Environ 30 années sur le champ missionnaire, et cela en a converti une par la littérature, là où, en 5 minutes, 10 000 sont venus par la manifestation de l'Évangile. Dieu ne nous a jamais dit de construire des églises. Il ne nous a jamais dit de construire des écoles. Ces choses-là, c'est bien. Les hôpitaux et ainsi de suite. Dieu sait que nous en avons besoin. C'est son programme. Mais la commission de l'Église est de prêcher l'Évangile. Mais distribution des tracts, de la littérature, d'Asbury, ce bel endroit ici, que Dieu bénisse ces gens, ce petit collège méthodiste ici à Wilmore, Kentucky, est l'un des meilleurs endroits spirituels, peu d'endroits dans le monde, je suppose, à cette époque. Ce sont des gens très bien. Et je descendais, j'ai oublié, c'était la Rhodésie, mais je ne connais pas le nom de la ville. Billy, tu t'en souviens? Salisbury, c'est ça, New Salisbury. Il est ma mémoire. New Salisbury, Rhodésie. Nous descendions de Rhodésie et j'ai vu un passeport américain en montant dans l'avion, un garçon et trois filles. Et j'ai dit, je me suis approché d'eux, j'ai dit bonjour. J'ai dit, je vois que vous avez un passeport américain. Il a dit, vous parlez anglais? J'ai dit, oui, je suis américain. Il a dit, eh bien, c'est très bien. J'ai dit, vous voyagez? Il a dit, non, nous sommes missionnaires. J'ai dit, oh, comme c'est bien. J'ai dit, je suis heureux de vous rencontrer. J'ai dit, d'où venez-vous? Quelle église? Où êtes-vous avec une organisation ou seulement libre? Il a dit, nous sommes méthodistes, nous sommes de Wilmore, Kentucky. J'ai dit, c'est presque dans ma cour à la maison. J'ai dit, il a dit, vous ne seriez pas ce frère Branham là-bas? J'ai dit, oui, monsieur, c'est vrai. Et ça l'a refroidi juste là. Vous voyez, il n'a pas voulu en dire plus. J'ai vu l'attitude qu'il a prise. J'ai regardé ses filles. Elles se regardaient comme ça. J'ai dit, attends un instant, fiston, ce n'était qu'un garçon. Et j'ai dit, et les filles? J'ai dit, j'aimerais vous parler un instant des principes en tant que chrétien. Nous le sommes tous et nous sommes ici pour la même grande cause. Je veux vous demander à vous trois, les filles, et à vous, jeune homme, pouvez-vous, au nom du Seigneur Jésus, vous avez dit que vous étiez ici depuis 2 ans, pouvez-vous mettre le doigt sur une seule âme que vous avez gagnée au Seigneur? Une seule âme. Ils n'ont pas pu le faire. Pas une seule âme. J'ai dit, je ne veux pas vous laisser, pas du tout. J'ai dit, j'apprécie ce que vous faites. Mais vous, les filles, vous devriez être à la maison aider votre maman à faire la vaisselle. C'est tout à fait vrai. Vous n'avez rien à faire ici, exactement. Et personne n'a d'affaire à aller dans les champs de mission à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit et de prêcher avec la puissance et les démonstrations parce que c'est la seule chose qui va agir sur les gens. Et regardez les soulèvements que vous avez maintenant et tout. C'est parce que le véritable évangile n'aura pas été prêché. On leur a donné sous forme écrite. Eh bien, vous voyez ce que c'est? C'est la continuité des rescapés durant l'âge de Luther. Quand cela a donné au monde l'accès à l'impression, c'est vrai, ou le libre accès à la Bible. Bon, maintenant l'âge, le grand âge. Maintenant, commençons maintenant, je crois que nous en sommes au... C'était la salutation, le verset 7, à travers, écrit à Philadelphie. Voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Toute une déclaration, n'est-ce pas? J'y reviendrai dans une minute parce que cela s'applique plus loin dans les Écritures ici. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer car tu as un peu de force, tu as observé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Bien. Maintenant, regardez-le. Le temps qui vient maintenant, après le grand mouvement missionnaire qui a balayé les nations d'amour fraternel pour prendre ce qu'elles avaient. Je n'ai rien contre cela, de la littérature et tout ce qu'il y a d'autre dans les différentes parties du monde. Maintenant, l'Église dénominationnelle était retournée aux œuvres de l'éducation de nouveau. Vous voyez, elle y était retournée. Après l'établissement de la grande dénomination, Jésus a mis une porte ouverte. Après l'arrivée de l'âge wesleyen et l'établissement de l'Église méthodiste sur la terre, elle a pris des racines, elle a grandi pour devenir la grande Église qu'elle est aujourd'hui, l'une des plus grandes parmi les Églises protestantes et de ce temps-là. Ce qui s'est passé à ce moment-là, Jésus a placé une porte ouverte pour l'Église. Avant que celle-ci entre dans l'âge de Laodicée. La raison pour laquelle je dis cela de cette façon, c'est pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par le chevauchement. Vous voyez, cela vient de l'âge missionnaire de la porte. Mais vous voyez, il leur avait dit qu'il avait la clé de David et ainsi de suite. Mais ici, maintenant, il dit qu'il avait mis devant l'Église, après cet âge missionnaire de Whitefield et tous les autres, et Finney, et Sankey, et Moody, et la suite, Moody étant l'un des derniers, en descendant jusqu'à maintenant, il a mis une porte ouverte devant l'Église. Oh, c'est ici que vous devez être attentif maintenant. C'est juste entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, le chevauchement. Jésus est la porte. Maintenant, si vous voulez bien prendre avec moi Jean 10, 17, appuyons cela maintenant. Soyons sûrs que beaucoup d'entre vous y croiraient. Et puis quelqu'un dirait, je n'ai jamais... C'est lui qui dit ça. J'aimerais juste le lire. Jean, chapitre 10, Et le verset 17, Jean 10, 17. Très bien, nous lisons ces paroles. Je vous demande pardon, Jean 7, pas 17. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de la bergerie. C'est le retour dans les bénédictions. Comment entrons-nous en Christ? Qu'est-il la bergerie? Je me suis souvent posé la question, comment pourrait-il être une porte étant un homme? Maintenant, dans les pays de l'Est, j'ai découvert un jour, lorsque j'ai remarqué que le berger, la nuit, il fait entrer toutes les brebis à l'intérieur du corral, les fait passer par une porte. Et quand il les a toutes fait entrer là-dedans, il les compte toutes pour voir si elles sont toutes là. Puis il s'allonge dans la porte lui-même. Rien ne peut entrer dans la porte ou aucune brebis ne peut en sortir sans le croiser. Jésus est donc la porte, voyez, de la bergerie. Et j'étais à bord d'une petite Jeep britannique et j'ai dit à l'homme, ce sont les bergers descendaient par la ville et un coup de sifflet a retenti et tout le monde a freiné. Et j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe? Et c'était un berger qui passait dans la ville avec ses brebis. Maintenant, là-bas, dans l'Est, ce n'est pas comme ici. Ils déposent toutes leurs marchandises à l'extérieur, sur le côté des maisons, aux places de marché. Il y a des pommes et des poires et toutes sortes de fruits et des raisins empilés de belle façon, empilés sur un présentoir comme ceci tout le long. Et chacun des vendeurs se tient là et essaie de vous attirer pour que vous achetiez ces fruits et ces choses. Eh bien, ce berger, il est passé directement par la rue principale. J'ai dit, frère, voilà l'endroit, il va y avoir une émeute, je vais me lever, regardez ça. Et le frère qui était avec moi a dit, vous allez être étonné, frère Branham. Regardez, tout s'est arrêté, le berger a marché par là sans faire attention et toutes les brebis le suivaient parfaitement. Il le suivait, s'il changeait sa trajectoire juste un peu ou tournait, toutes les brebis derrière lui changeaient de trajectoire, la suivante le suivait exactement de la même manière et elle prenait ce tournant. Oh, c'est ainsi que nous suivons le berger. C'est juste, il est passé en plein milieu de cette rue pour aller chercher quelque chose à l'autre bout, et ses brebis l'ont suivi comme un chien. Et elle regardait autour, et regardait ses bonnes choses, mais elle suivait le berger. Oh, j'aime ça! Voyez, j'ai dit, oh mon frère, j'aimerais pouvoir parler cette langue, je prêcherai tout de suite. Vous y êtes? Oui, il n'avait pas tourné ni à droite ni à gauche, mais il a suivi seulement le berger. C'est ce que l'Église a fait tout au long de son parcours. Elle est restée derrière le berger, le Saint-Esprit, qui nous conduit dans la vie éternelle. Non pas se tourner parce que celle-ci est une grande Église florissante, et celle-ci a tellement de docteurs, et ceci, cela, comme cela, mais elle est restée derrière le berger. Partout où va le berger, les brebis suivent. Mes brebis connaissent ma voix, et elles ne suivront pas un étranger. C'est vrai, ce berger connaît les bêlements et tout ce qui fait que ces brebis se comportent bien. Et quand nous sommes sortis de la ville, c'est une chose étonnante. J'ai vu un champ là-bas et quelqu'un traînait près de là. Il avait des ânes, des vaches, des cochons, des brebis, des chèvres et tout là-bas. Et j'ai dit, bien, qui sont ces gens-là? Il a dit, des bergers. Et j'ai dit, un berger qui paie des ânes? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, je pensais qu'un berger n'élevait que des brebis. Il a dit, non, le berger est un éleveur, un nourrisseur. Et dans votre pays, on les appelle cowboys et ce genre de choses. Et j'ai dit, oh, je vois, un berger est un éleveur. Il surveille les troupeaux. C'est exact. Il a dit, la chose étrange, c'est la nuit où vous, c'est frappant. Vous, étant un ministre, eh bien, je pourrais vous dire quelque chose. Il a dit, quand la nuit tombe, c'est vrai qu'il fait paître chacun d'entre eux. Il les conduit ici et là et les aide et veille à ce qu'elles prennent de bonnes choses pendant la journée. Mais lorsque la nuit vient et tous les mulets, les ânes et les chameaux et tout ce qu'il a sont laissés à l'extérieur dans le champ, mais il rassemble les brebis et les amène dans le corral. Oh, j'ai dit, Seigneur, fais de moi une brebis, quoi que tu fasses, voyez, car quand la nuit viendra, je veux aller dans la bergerie. Entrer par la porte, passer par la porte. Jean 17, 7, ici, où il a dit, je suis 17 plutôt, il a dit, je suis la porte de la bergerie. tous qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Maintenant, j'ai mis devant cette église, entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, une porte ouverte. Oh, le comprenez-vous maintenant? Ayez votre casque de réflexion bien placé et ajusté. Écoutez, c'est bon. Je vous le dis, c'est du miel sur le rocher, juste d'extraire les pépites et de les polir. Je suis la porte de la bergerie. Quelle est donc cette porte qui a été mise en place? Revenons en arrière dans notre pensée et à partir de ce grand âge missionnaire des méthodistes qui a balayé le pays avec le message de la sanctification, Luther par la justification. Wesley est venu avec le message de la sanctification et à la fin de l'âge méthodiste, à la fin, quand cela a pris racine et commencé à devenir une grande organisation, et quand une église. Maintenant, écoutez, c'est fort. Mais je veux que quelqu'un me montre un seul endroit où, en glanant dans l'histoire, toute église que Dieu a jamais suscitée, qui est née par le moyen de la Pentecôte, sans aucune organisation, dès qu'elle s'organisait, elle mourait et ne se relevait plus jamais. Oh, les membres ont continué, mais n'ont plus jamais eu de réveil. Le réveil de Luther ne s'est jamais relevé. Le réveil méthodiste ne s'est pas non plus relevé. Et le réveil pentecôtiste ne se relèvera jamais. Non, monsieur. Ils l'ont organisé. Et ce que Dieu a dit dans les âges de l'Église, qu'il haïssait cette chose. La doctrine des Nicolaites. Maintenant, souvenez-vous, nous ne parlons contre personne. De braves gens sont dispersés partout. Les brebis de Dieu sont dans tous ces endroits là-bas. C'est vrai, c'est exact. Les méthodistes, les baptistes, quels qu'ils soient, ils sont le peuple de Dieu. Ils sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Mais les organisations les ont pris dans leur carcan. Ils ont trailé la lettre des méthodistes pour aller chez les baptistes, puis chez les campbellites, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient usé les lettres à force de les trimballer d'un endroit à l'autre. Très bien. Comme le Seigneur a dit ici, à la fin de cet âge, je suis la porte de la bergerie. Maintenant, quelle porte a été ouverte concernant Jésus juste entre ces deux âges? 1906, quand l'âge méthodiste et Dwight Moody et les autres ont disparu de la scène, cela a été le début où des gens ont reçu le Saint-Esprit, ont parlé en langue et ces choses sont revenues dans l'Église. C'est à peu près vers 1906, quelque part par là. Très bien. Que s'est-il passé alors, après que cela eut lieu? La première chose qui est arrivée, c'est ce qu'ils ont organisé l'ancien conseil général qui est entré, qu'on appelle maintenant les Assemblées de Dieu. Voyez, à partir de cette église qui avait connu un chevauchement, et que s'est-il passé ensuite? Il a mis une porte ouverte. Une porte ouverte. Maintenant, lisons-le maintenant, prenons le mot à mot tel qu'il est à porte. Voyez? Voyez, personne ne fermera, mis devant toi une porte ouverte. C'est de l'autre côté. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Une porte ouverte, qu'est-ce que c'était? C'était la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Non pas comme une seconde personne de la Trinité, mais comme étant Dieu lui-même, fait chair et habitant parmi nous. Et la révélation, maintenant, si vous remarquez, juste dans une minute, lisons juste un peu plus loin, « Fermez cela, tu as un peu de puissance et tu n'as pas renié mon nom. » La première fois que le nom a été mentionné depuis cet âge-ci en arrière, il avait perdu son nom, et Luther est sorti avec un nom de vivant, pourtant il était mort. Pas vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Voici revenir le nom de Jésus entre ces deux âges ici, entre les deux, la porte ouverte. Maintenant, c'est une révélation de qui il était, la divinité, les révélations de sa divinité. C'est ce qu'il a révélé au tout premier âge de l'Église. Maintenant, regardez. Comme Jean l'avait vu debout, les sept chandeliers d'or, il se tenait debout, les mains tendues. Voici le premier chandelier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, avec ses mains tendues en forme de croix. Il a dit, je suis l'alpha et oméga. En d'autres termes, je serai suprême dans le premier, je serai suprême dans le dernier. La lumière se lève à l'est et se couche à l'ouest. Cela a été un temps sombre et ténébreux, mais il y aura de la lumière au temps du soir. La même puissance de l'Évangile qui s'est levée ici d'un côté à l'est a brillé partout et maintenant de l'autre côté à l'ouest. L'alpha et l'oméga. Je suis A et je suis Z. Dans ses mains. Vous saisissez? Maintenant, qu'a-t-il fait dans le premier chapitre de l'Apocalypse? Il a révélé sa divinité suprême à la première église Éphèse. Pas vrai? Eh bien, maintenant, remarquez, à chacune de ces églises qui sont passées par ici, il a révélé sa divinité seulement sous sa forme glorifiée. Mais à cette dernière, il est devenu Z, de retour de nouveau au commencement original. Voyez, le premier et le dernier. Le premier âge, maintenant le dernier âge, car il a dit, je suis le premier et le dernier. Mais vous dites, comment s'est-il arrivé? Qui a fait avancer ça? C'était une révélation. Beaucoup d'entre vous ici l'ont reçu, parce que je vais lire quelque chose maintenant. Regardez. Toute son Église est bâtie sur les révélations divines de lui-même. Pas vrai? Si vous n'y croyez pas, prenons Matthieu 16, 18. Vous verrez dans une minute que toute la révélation est bâtie sur lui-même. Toute son Église est bâtie sur les révélations de lui-même. Maintenant, commençons ici, commençons au verset 14. Et ils répondirent, certains disent, tu es Jean le Baptiste. Là, la question était, Jésus a dit, sur les côtes de Césarée de Philippe, il a demandé à ses disciples, qui disent les hommes que je suis le Fils de l'homme? Et ils ont dit, maintenant, observez, voici la première place où Jésus a parlé de l'Église et là, dans l'Apocalypse, qu'il est la dernière. Et il répondit, certains disent, tu es Jean le Baptiste, et d'autres, Élie, et d'autres, Jérémie, et d'autres, ou un des prophètes. Il leur a dit à tout le groupe, mais qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oh là là! Et Jésus répondit et lui dit, « Tu es heureux, Simon, Simon Barjonas. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Oh là là! Tu n'as jamais reçu ça dans un séminaire? Il n'y avait pas d'autre moyen de l'obtenir, Simon, fils de Jonas. La seule façon de l'obtenir, c'était une révélation spirituelle qui t'a été révélée du ciel, que je le suis. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Je le suis. Je te dis à toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cela. Qu'est-ce que c'est? Spirituel. Spirituel. La vérité spirituelle. La parole du Seigneur. Ainsi, nous découvrons que dans cette grande révélation que Dieu a donnée ici à l'Église en ces derniers jours, que Dieu a envoyé et s'est révélé comme la porte ouverte entre les deux âges. Ce n'était pas dans l'âge de Laodicée ni dans cet autre âge, l'âge de Philadelphie, mais c'était entre les deux, le chevauchement. Parce que, je vais le prouver un peu plus loin, vous le saisirez, vous voyez, nous allons enrichir cela pour être certain que vous ne pourrez pas vous empêcher de le voir, si vous voulez simplement le voir, vous voyez, très bien. Maintenant, la révélation de lui-même est ce sur quoi il a bâti son Église. Maintenant, combien savent que c'est vrai? Il a bâti son Église sur la révélation de lui-même. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Nul ne peut la fermer. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Qu'est-ce que la porte ouverte? La révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit à sa première église derrière ici, dans cet âge-ci? Il a dit, « Je suis celui qui était, qui est et qui viendra. Je suis le premier et le dernier. Je suis le Tout-Puissant. » Il a dit trois fois, il s'est présenté comme la divinité à cette première église ici, avant d'entrer dans le dernier âge de l'église. Il a dit, « Je mets devant toi une porte ouverte. » Si vous voulez voir la révélation, c'est ici où il bâtirait son église. Et le seul moyen qu'il pouvait prendre son église, c'est de revenir à la révélation de ce qu'il est. Certainement. Regardez. Quand Abraham a fait une alliance, où Dieu a fait une alliance avec Abraham, le jour où il a dit, « Comment cela arrivera-t-il, puisque je suis vieux, et mon seul héritier est ce serviteur de Damas que j'ai ici, Eliezer. » Il a dit, « Je suis vieux et que tu m'as promis un enfant. Comment vas-tu le faire? Comment cela se fera-t-il? » Et souvenez-vous, il s'est endormi, un profond sommeil, il s'est abattu sur lui, comme cela arrive à tout homme, la mort. Et puis il remarqua, devant lui s'est passé une fournaise fumante. Tout pécheur mérite d'aller en enfer. Il avait tué une bête, une génisse, une chèvre et un bélier, une tourterelle et un pigeon. Il n'a jamais séparé la tourterelle et le pigeon. Et alors, cette petite lumière blanche s'est avancée et a fait des allers-retours entre ces morceaux d'animaux coupés, confirmant ainsi l'alliance avec Abraham. Or, au Japon, s'il y a un Japonais ici, vous savez comment on conclut une alliance au Japon, ils se jettent du sel les uns sur les autres. Ils prennent un petit bol de sel et s'assoient là et ils disent, « Feras-tu telle ou telle chose? » »« Oui, je ferai telle ou telle chose. » Puis ils concluent une alliance, ils prennent du sel et le jettent sur l'un parce que le sel préserve, vous voyez, très bien. Ils se jettent du sel les uns sur les autres, c'est une alliance. En Amérique, la façon de conclure une alliance ici, nous disons, « Eh bien, feras-tu une certaine chose? » »« Je ferai une certaine chose. » Et la première chose que vous savez, c'est qu'on se serre la main. Serrons-nous la main, c'est une alliance. Mais en Orient, la manière qu'il concluait l'alliance, il écrivait quelque chose. Il rédigeait un contrat, il tuait une bête au temps d'Abraham, il coupait cette bête en deux et se plaçait entre les deux morceaux. Il écrivait ce contrat et le déchirait comme ceci. L'un prenait un morceau et l'autre prenait l'autre morceau. Puis il faisait un serment selon lequel leurs corps seront comme cette bête morte si elles ne respectaient pas ce contrat. Et maintenant, le seul moyen pour que ce contrat soit un jour, vous ne pourriez jamais le reproduire. Ça devait correspondre exactement à la même chose joint ensemble. Maintenant, qu'est-ce que Dieu montrait à Abraham qu'il allait faire? Qu'il allait prendre la semence d'Abraham à travers Isaac jusqu'à Jésus et l'amener au calvaire et de là, il l'a déchiré. Il a fait sortir l'esprit de lui, loin du corps. Il a ressuscité le corps et l'a placé à la droite de la majesté d'en haut et a renvoyé le Saint-Esprit à l'Église. C'est l'alliance de Dieu déchirée. Nous avons l'Esprit, il a le corps. Et quand cela sera rassemblé, l'Esprit qui était en nous se joindra à lui comme l'épouse. Amen. Aucune dénomination ne s'unira à cela. Non, monsieur. C'est purement sans mélange une naissance par le Saint-Esprit. C'est tout, c'est l'alliance. Maintenant, nous découvrons maintenant qu'il a dit, « Je mets devant toi une porte ouverte, et peu importe le nombre d'organisations faites de main d'homme qui s'élèvent ou de dénominations, même les portes de l'enfer ne peuvent fermer cela. Le seul moyen de vaincre cela, c'est de s'y joindre. C'est tout. Vous ne pouvez pas vous y joindre, alors vous devez naître dans cela, c'est vrai. Ainsi, personne ne pourra jamais arrêter ce message de la divinité suprême et du baptême au nom de Jésus-Christ. » Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre cela. Vous dites, comment savez-vous que c'est vrai? C'est exactement en accord avec la parole et personne d'autre ne peut rien dire à ce sujet. Exactement, c'est la parole. Nulle part où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce grand saint Paul, l'ange d'Éphèse, a commissionné toute personne qui n'a pas été baptisée. Et quelle que soit la manière dont vous aviez été baptisé, si vous n'aviez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, il vous commissionnait de venir être baptisé de nouveau au nom de Jésus-Christ. Si un ange du ciel vient à vous annoncer quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Ainsi, vous pouvez voir ce que l'ange vient dans ces derniers jours. Quel genre de message il aura quand il viendra? On se dirige peut-être vers lui, mais je vous le dis, quand il viendra, il prêchera le baptême au nom de Jésus-Christ. Si vous n'y croyez pas, venez demain soir et laissez-moi vous le montrer d'un bout à l'autre des Écritures. Il le fera certainement. Et la circoncision du cœur et les miracles divins, les démonstrations de puissance comme ils en avaient au jour de la Pentecôte, la bénédiction de la Pentecôte originelle reviendra directement sur ce petit reste pour le faire monter là-haut. Ce contrat sera exactement comme il était quand il a été déchiré au départ. Oh, je l'aime. Je suis si heureux, si heureux. Je ne peux pas l'exprimer assez énergiquement. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux. J'aimerais bien que tous mes frères soient comme ça. J'aimerais bien que mes frères et sœurs d'ici, mes précieux amis là-bas dans le monde, puissent voir cette grande chose. J'aimerais bien, je le voudrais ce soir. Dieu sait cela. J'ai un petit garçon, Joseph, à élever. Et une petite fille, Sarah et Rebecca. Une charmante épouse que je déteste de voir quitter. Mais si je savais que mes frères, par les gens que je connais dans ce monde, pourraient accepter cela et le croire et être remplis du Saint-Esprit, je serais prêt à partir dès maintenant. C'est tout à fait vrai, voyez? Oh, si je pouvais juste, et vous ne pouvez pas, si vous leur parlez doucement, ils pensent que vous essayez de leur faire avaler quelque chose. Il y a quelque chose à faire, c'est de vous en tenir strictement à la parole et d'enfoncer le clou. Et c'est tout à fait exact, et tenez-vous-en strictement à elle. Oh, comme je l'aime. Une révélation de lui-même, sa divinité suprême, pourquoi l'a-t-il fait? Je ne peux pas tout simplement pas laisser ce sujet, pour une raison quelconque. Il l'a révélé dans l'église d'Éphèse, pas vrai? Et c'est à ce moment que la lumière est apparue pour la première fois pour briller, la lumière chrétienne. Pas vrai? L'âge du Saint-Esprit a commencé ici même, à Éphèse. Et le prophète a dit, il viendra un jour qui ne serait ni nuit ni jour, mais qu'au temps du soir, la lumière reviendrait. Vous le voyez? Vous le voyez? Ce jour sombre, passé à travers tout ce qui est sombre ici, les organisations et tout, mais dans les derniers jours ici, tout en bas, il mettrait cette porte ouverte. Jésus a dit, je suis cette porte. L'avez-vous jamais entendu dire, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la lumière, voyez? L'avez-vous déjà entendu dire, étroite est la porte et resserrée le chemin? Avez-vous déjà remarqué comment c'est étroite ses plaies? D-T-R-O-I-T, de l'eau. Un détroit signifie une eau, éplée comme cela, étroite. E-T-R-O-T-I-E, détroit, l'eau est le chemin. Et cette eau est la porte, et resserrer le chemin. Qu'est-ce que l'eau? La porte, voyez, pour ouvrir. Au nom du Seigneur Jésus, est le chemin à travers l'eau. Étroite, étroite est la porte, resserrer le chemin que Jésus... L'eau est la porte. Au nom du Seigneur Jésus, c'est l'entrée. Repentez-vous, chacun de vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez, en regardant vers le calvaire, le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Certains d'entre eux disent juste pour les apôtres. Pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est tout. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. La promesse est pour tout le monde si vous venez de la même façon que l'ordonnance se lit. C'est vrai. Ne dites pas, je vais me faufiler par ici. Il y a eu un homme qui s'est faufilé une fois, vous savez, il est entré d'une autre façon, le saviez-vous? Avez-vous déjà lu la parabole? Il y avait un homme qui s'est faufilé et est entré d'une autre façon. Maintenant, en Orient, quand ils étaient au souper des noces, nous en parlerons le matin. Au souper des noces, comment cet homme était entré? Nous prendrons ça demain matin. J'allais le dire maintenant, mais je vais laisser tomber le matin. Comment cet homme était entré dans cet endroit depuis le souper des noces ou pour le souper des noces? Très bien. Étroite est la porte et resserrez le chemin. L'eau est la porte, l'entrée vers le Seigneur Dieu. J'ai laissé une porte ouverte. J'ai les clés. Je suis le seul à pouvoir l'ouvrir. Je suis le seul à pouvoir le révéler. J'ai les clés. Pas vrai? Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Aucun homme ne peut être sauvé autrement que par Jésus-Christ, pas par l'intermédiaire d'une église, d'une organisation, d'un évêque, d'un pape, seulement par Jésus-Christ. Il a la clé, il est le seul qui peut, les clés de quoi? David, le millénium à venir, où il montera sur le trône de David. J'ai les clés de David, J'ouvrirai cette porte et personne ne pourra la fermer, personne ne peut l'ouvrir à part moi et personne ne peut me la tenir fermée. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il savoir qu'il est le Christ jusqu'à ce qu'il soit révélé à lui? Voyez, il se révèle, il a la clé, il peut l'ouvrir ou la laisser tranquille, voyez? J'ai la clé de la porte. Je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la lumière. Oh, je suis Alpha. Je suis l'Oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le Père. Je suis le Fils. Je suis le Saint-Esprit. Je suis, pas j'étais ou je serai, je suis celui qui suis. Ça, ça dit tout. Je suis, pas j'étais ou je serai, je suis. Cela signifie présence vivante pour l'éternité, voyez. Je suis. Toujours été, serai toujours, je suis maintenant comme je l'ai toujours été et comme je le serai toujours. Voyez, il est juste, je suis. J'ai les clés de David pour le royaume, nul ne peut la fermer. Le verset 7 prouve qu'il a les clés de David, personne ne peut la fermer. Voyons, maintenant quand il est l'étape suivante, rapidement, car tu as un peu de force. Oh, il a dit à ce petit groupe, tu as juste un peu de force maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un homme qui est mort, qui se secoue, qui vit, qui revit, qui renaît un peu, qui revient à la vie. Vous êtes sorti de ces vieilles croyances mortes et tout le reste. Vous commencez à prendre un peu vie, à vous secouer, à vous réveiller un peu. Tu as un peu de force, mais j'ai mis une porte devant toi. Dès qu'ils sortiront du luthéranisme et du papalisme et de tous ces autres ismes et du méthodisme et tout le reste, il a dit, j'ai mis une porte devant toi maintenant que tu as un peu de force, que vas-tu faire? Elle est placée devant vous pour vous faire entrer ou sortir selon votre choix. La porte est placée devant vous. Tu as un peu de force, tu viens juste de prendre vie, tu ne fais que commencer. Il en était de même pour l'Église primitive. Remarquez qu'à la fin de l'âge de Laodicée, il s'est remis au travail. Maintenant, si vous remarquez par ici pour vous montrer que cette église est entre ces deux-là, si vous entrez dans l'âge de Laodicée ou l'âge de l'église de Laodicée, je connais tes œuvres juste à la fin de l'âge de Laodicée. Qu'est-ce que c'était? Tes œuvres et le siège où se trouve Satan. Quel était le siège de Satan? Vous voyez, ils sont retournés directement dans une dénomination de nouveau. Vous, Assemblée de Dieu, Pentecôtistes unitaires et Église de Dieu, ne voyez-vous pas, mes frères, ce que vous avez fait? Vous êtes retourné directement à ce que Dieu haïssait. Briser la fraternité. Regardez les assemblées de Dieu. Certains des gens les meilleurs au monde font partie des assemblées de Dieu. Regardez cette église pentecôtiste unie, des gens parmi les meilleurs que vous aurez jamais rencontrés de votre vie. Regardez dans l'église de Dieu. Et allez, à cause de ces organisations, ils argumentent, hurlent les uns aux autres. Ils s'appellent bûches perchées et tanières de rats. Mais c'est une honte. Une chose que Dieu haït, c'est de semer la discorde entre frères. Et c'est vrai. Et ce sont elles, les organisations qui sèment la discorde entre les frères. Nous devrions nous tenir dans la brèche et dire, nous sommes frères. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes un seul corps, un dans l'espérance et la doctrine de la Bible, l'espoir et l'amour. J'aime ce vieux chant, en avant, soldats chrétiens. Oui, monsieur, à la fin des Laodiciens, ils se sont remis au travail, où les dénominations pentecôtistes sont retournées à la dénomination. Prenons le verset 15. J'ai ici verset 15 d'Apocalypse 3, et voyez si ce n'est pas vrai maintenant. Apocalypse 3, et où voyons voir, j'ai bien écrit ça, Révélation, oh non, j'avais tort. Verset 15, c'est le verset 15 de ce même chapitre qui montre la même chose ici en bas, oui. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud, je sais que tes œuvres, je connais tes œuvres. Ils ont montré qu'ils sont retournés à leur première chose à nouveau. Ils sont revenus avec leur force, ils sont retournés aux dénominations pentecôtistes. Le verset 15 du même chapitre, très bien. Entre les deux âges, ils avaient un peu de force, entre les deux âges dénominationnels de doctrine nicolaïte. Maintenant, quand les luthériens se sont formés ici, ils sont retournés dans le nicolaïsme, les grands archevêques et ainsi de suite. Puis Wesley est arrivé, ils ont formé l'archevêque de Canterbury et tous ces différents grands partout dans les églises et ainsi de suite dans cet âge. Puis plus loin, ici, les pentecôtistes, ils reviennent directement à la même chose de nouveau, toute leur grande dénomination à la doctrine des nicolaïtes. Mais entre ces deux âges, il a ouvert la porte et a donné un peu de force à l'Église pour qu'elle reprenne assez de vie jusqu'à ce qu'elle secoue la tête, qu'elle regarde par là-bas et voit où elle en était, qu'elle reçoive la révélation. Tourne pour voir quelque chose, assommée, vous savez, et la première chose que vous savez, elle a commencé à se secouer la tête et regarder autour d'elle et à secouer sa tête. Au fait, j'ai rêvé à ça la nuit dernière. Charlie, j'ai cru que j'avais tiré une écureuil et que je l'avais fait tomber de la branche. Et j'ai vu une vieille femme là-bas et elle était en colère contre moi. Elle allait venir pour m'attraper. Et cet écureuil avait une petite ficelle blanche autour du cou et ce petit bonhomme est resté allongé là, à secouer la tête deux ou trois fois. Il m'a regardé, il s'est enfui aussi vite qu'il a pu, tout droit dans les bois. Vous savez, cette vieille dame se représentait peut-être l'Église. Peut-être pas. Elle a essayé de me piétiner, je lui ai échappé. Mais au juste, un peu la lumière, mais assez pour le savoir. Je sais que je suis descendu dans la rue et j'ai allé couper ma route. J'ai fait un volte-face si vite avec ma Ford. Elle avait une remorque à l'arrière. Elle s'est complètement retournée. Je suis parti dans l'autre sens et ça l'a empêché de m'attraper. Je viens juste de m'en sortir. Donc, il te reste un peu de force. Alors, vous utilisez cette force pour vraiment faire volte-face entre les deux dénominations. Avez-vous remarqué? Gardez sa parole. Regardez le verset suivant ici. Tu as un peu de force. Tu as gardé ma parole. Gardez ma parole, et c'est comme ça qu'ils ont eu la force. C'est comme ça qu'ils ont eu la révélation. C'est celui qui s'est emparé de la Bible quand Luther l'a imprimé, et s'est répandu à travers l'âge de Wesley, et ainsi de suite. Ils l'ont saisi, ont gardé la parole, et ont vu la révélation de Jésus-Christ étant Dieu, fait chair parmi nous, et le baptême d'eau au nom de Jésus, alors ils sont entrés directement en elle. Vous y êtes. Puis ils avaient son nom à ce moment-là, voyez? Voyons, c'est aussi clair, plus clair que de lire le journal, voyez? Eh bien, vous ne pouvez pas le lier parce que c'est ici, c'est ce que dit la Bible, et le voilà, c'est ici, nous avons, c'est de l'histoire. C'est exactement ce que, là que l'Église pentecôtiste a commencé, a reçu son nom vers 1908, 10, 12, quelque part, elle a commencé à tomber. Maintenant, d'accord. Et n'a pas renié le nom, n'a pas renié mon nom. Maintenant, j'aime ça. Il a obtenu les clés de David maintenant, il peut garder sa parole et vous faire entrer dans le royaume. Son nom avait été révélé. Ils sont sortis de l'Église qui avait un nom qu'ils étaient morts. Et maintenant, ils sont entrés dans l'Église qui a le nom, c'est-à-dire qu'ils ont la vie. Voyez, sortez d'entre les morts, Père, Fils, Saint-Esprit, nom de Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'a même pas de sens. Voyez, c'est donné par une révélation. Tout son livre est écrit sur la révélation. C'est ce que c'est. Il se révèle lui-même. Il a dit, « Allez baptiser les uns au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Maintenant, lequel de ces noms allez-vous utiliser? Or, la plupart des trinitaires baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce n'est même pas biblique. Demandez à n'importe qui. Voyez, ce n'est pas. C'est dans le nom, au singulier, pas dans les noms. Nom, nom du Père, du Fils Saint-Esprit. Très bien. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelque chose de mort. Il n'y a pas de nom pour ça. Mais à travers ces titres morts, par la vie du Christ, elle se révèle. Et Pierre devait avoir, il se tenait là juste avec les clés du royaume des cieux dans sa main. Et le royaume est le Saint-Esprit pendu à son côté, les clés du royaume. En d'autres termes, la révélation parce que Jésus lui avait dit. Vos frères, ne voyez-vous pas cela? Pierre était celui qui était béni avec la révélation de la vérité. Il se tenait là, juste là, et il a entendu Jésus dire, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Pierre s'est retourné, il a dit, « Seigneur, c'est sûr, j'ai les clés ici. J'ai eu la révélation de ce que cela signifie, car je sais que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et le Saint-Esprit n'est pas un nom. Aussi, je sais que c'est quelqu'un nom, alors je vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Phew. C'est vrai. Maintenant, c'est comme si vous lisiez une histoire d'amour. C'est le dernier livre de Matthieu, la dernière partie dans le livre de Matthieu. Si vous avez lu une histoire d'amour, certains d'entre vous, mesdames, je sais que vous ne le faites pas, vous ne le feriez pas, jamais. Mais supposons que vous l'ayez fait quand vous étiez une pécheresse. Vous avez lu une histoire, vous savez, quand vous étiez une vieille fille, vous avez lu cette histoire, vous avez dit, Jean et Marie vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah, qui sont Jean et Marie? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon pour savoir de qui sont Jean et Marie, c'est de revenir au premier livre et de le lire, par vrai. Eh bien, dans le dernier livre de Matthieu, au dernier verset, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, si Pierre n'est pas un nom et que le Fils n'est pas un nom et que le Saint-Esprit n'est pas un nom, mieux vaut retourner voir ce qu'en dit le livre au commencement, voyez. » Bon, si revenons au chapitre... Au premier chapitre de Matthieu, voici ce que vous trouverez. J'aimerais juste présenter cette petite illustration ici, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui ne l'a jamais vu. Regardez bien ceci. Ceci est le Père, ceci est le Fils, et ceci est le Saint-Esprit. Maintenant, soyez très attentifs. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 19. Pas vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, qui est-ce? Père, écoutez-moi. Père, Saint-Esprit, Fils. Maintenant, qui est-ce? Le Saint-Esprit. Qui est celui-ci? Le Père. Qui est celui? Fils. Très bien. Alors, c'était le Père de qui? Jésus-Christ, c'est pas vrai? Maintenant, Matthieu, le premier chapitre, verset 28, lisons-le. Là, nous allons prendre l'histoire d'amour et voir comment cela se lit. Nous verrons qui était cet homme qui a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Très bien. Maintenant, le premier chapitre de Matthieu commence avec les généalogies. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ça se poursuit comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au verset 18. Bon, vous voyez, descendez jusqu'ici à 17. Il y a donc eu un tout début Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone, 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ quand Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Est-ce que vous lisez avec moi? Écoutez attentivement. Quand Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, elle se trouva en avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action de Dieu le Père. Est-ce bien ce qu'on y lit? Se trouva enceinte par l'action de quoi? Eh bien, je croyais avoir entendu dire quelqu'un que c'était son Père. Alors, si le Saint-Esprit est une personne et que le Père est une autre personne, alors il y a deux Pères. Qu'est-ce que vous avez? Un enfant illégitime. Oh, vous dites, ils sont tout simplement trompés. Il s'agit d'une erreur d'impression. Très bien. Et Joseph, son époux, était un homme de bien. Il ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... » Toute l'affaire se révélera sur la déclaration de deux ou trois témoins, voyez? Ah oui? Le Saint-Esprit était son Père. Eh bien, il a dit que Dieu était son Père. Bon, il s'agit de deux personnes différentes, lequel était son Père? Voyez où ça vous mène? Vous vous jetez tout droit dans le vide entre le ciel et la terre, voyez? Maintenant, vous devez dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Eh bien, vous en avez deux à présent, au lieu de trois. Très bien. Très bien. Verset 21. Qu'elle a conçu, qui a placé, qui était celui qui avait conçu cela en elle? Le Saint-Esprit. Très bien. Elle enfantera un fils... Et tu lui donneras le nom, nombre de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quel était son nom? Maintenant, qui sont Jean et Marie, qui vécurent heureux et qui eurent beaucoup d'enfants? Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quand Jésus est né sur terre, il était le Christ, le Seigneur. Le jour de sa circoncision, 8 jours plus tard, sa mère lui a donné le nom et son père lui a donné le nom de Jésus. Il était Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il était Seigneur quand il est né, il était Christ le Seigneur, et puis quand il a reçu son nom, celui de Jésus, cela a fait de lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce qui a été révélé à Pierre. Il savait qu'il était Jean et Marie quand il a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ainsi, cela pouvait être révélé car Jésus savait que Pierre avait le don des révélations. Il le savait parce que cela lui avait déjà été révélé par l'Esprit d'en haut. Et quand Dieu voit qu'un homme peut recevoir des révélations d'en haut, il peut faire confiance à cet homme, faire quelque chose avec lui. Quand cela lui est révélé, parce qu'il dit, nul homme ne peut révéler ceci sinon son Père, Dieu est le seul qui peut révéler cela. Et il savait que Pierre était en contact avec l'Esprit. Alors Pierre le savait par révélation, et donc il est monté là-bas et il a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, quelques jours auparavant, Jésus avait dit à Pierre, au même moment, il lui avait dit que la révélation parlait, sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je dis que tu es Pierre. Et je te donnerai les clés. Oh, les clés du royaume. Je vais te donner les clés. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que tu déliras sur la terre, je le délirai dans le ciel. Alors, le jour de la Pentecôte, lorsque l'inauguration d'Église, 10 jours après que Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Pierre, par révélation spirituelle, savait qu'il n'y avait pas une telle chose que le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Eh bien, personne d'autre ne pensait ça avant l'âge catholique. Et toute personne baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit a été en fait baptisée dans la foi catholique. C'est vrai. Et non pas du baptême chrétien. Il y avait le reste. Donc, au jour de la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue et ils se conduisaient comme s'ils étaient ivres. Ils étaient ivres de vin nouveau, le vin nouveau qui venait du ciel, de Canaan, d'en haut. Et alors qu'ils jubilaient, ils poussaient tous ces cris, se comportant comme des gens ivres et ainsi de suite. Pierre s'est tenu au milieu d'eux et leur a dit, ces gens ne sont pas ivres, mais ils l'étaient. Ils l'étaient, c'est ce qui était dit par le prophète, qu'il répandrait son esprit. Et là, ils ont dit, homme, frère, que ferons-nous? Homme, frère, que ferons-nous? Voilà la question. Comment allons-nous l'obtenir? Qui a les clés? Voici, viens ici, Simon. Tu as les clés. Retire-le de ta ceinture et là, qu'est-ce que tu vas dire? Maintenant, rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, si vous le liez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Si tu le délies sur la terre, je le délierai dans le ciel. S'il est dit, il doit garder sa parole. Maintenant, vous, les prêtres catholiques, montrez-moi votre pardon des péchés. Un prêtre catholique m'a dit une fois, « Jésus n'a-t-il pas dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés? » J'ai répondu, il a dit, « Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus? » Oui. « Ceux à qui vous pardonnerez, ils seront pardonnés. C'est à qui vous ne pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. » J'ai dit, « C'est bien ça, c'est ça qui est écrit. Alors, ce Christ n'a-t-il pas donné à son Église, nous qui sommes son Église, le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre? » Bien sûr qu'il l'a fait. Il dit, « Maintenant, si vous les pardonnez de la même manière qu'eux pardonnent, je suis d'accord avec vous. » Oui, j'ai dit, « Comment leur pardonne-t-il? » Est-ce qu'ils leur ont dit d'aller faire une neuvaine ou quelque chose comme ça, comme vous le faites? Non, monsieur, Pierre leur a dit, repentez-vous! Amen! Voici la clé. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La clé a fait clic sur la terre et elle a fait clic dans le ciel. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque Paul en a rencontré quelques-uns qui avaient déjà été baptisés par le même homme qui avait baptisé Jésus, il a demandé, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Ils ont dit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il a dit, « Prenez le mot grec, quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême de Jean, ça ne marchera plus. Il a fermé les cieux, vous devez venir être baptisé au nom de Jésus-Christ. » Aussi, ils ont entendu cela, ils ont été baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ. Après cela, Paul leur a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. « Oh mon frère, nous sommes de retour au commencement. » C'est tout à fait ça, c'est la porte ouverte qui a été placée juste ici, géographiquement, c'est exact. La lumière du soir et toutes les écritures de la Bible y mènent directement. Nous pourrions rester ici pendant des heures. Il me reste 15 minutes, alors j'ai environ 35 commentaires différents par ici. Si on ne le fait pas, on les apportera demain matin. Si on ne les apporte pas ce soir, très bien. Bon, très bien. Que nul ne peut fermer parce que tu as un peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, très bien, et que tu n'as pas renié mon nom. Voilà, nous l'avons. Pas renié mon nom. Le nom avait été révélé, c'était éloigné de l'ancienne dénomination morte de Sardes qui était venue dans l'Église vivante. Prenons maintenant le verset 9. Nous allons observer maintenant, nous allons entrer dans quelque chose de très dangereux. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Il y en a pour une soirée bien remplie, juste là. Observez. Que sont-ils maintenant? Ceux à qui il a parlé, qui ont découvert son nom après tout ce temps passé ici, en bas, ils sont entrés par Jésus-Christ, la porte ouverte, ont reçu la parole de la vie, ont été remplis du Saint-Esprit. Et là, il leur dit, il y en a parmi vous qui sont de la synagogue de Satan. Maintenant, mon frère, si vous voulez bien retourner à Pergame, à Apocalypse 2:13, juste un instant, et me permettre de vous montrer ici ce que c'est vraiment la dénomination. Je connais tes œuvres. Où tu demeures là où est le siège de Satan. Voilà. Cet âge de Laodicée, ou je veux dire l'âge de l'Église de Nicolette, là où ils sont formés une dénomination. Et regardez bien, pour montrer qu'ils étaient une Église, une synagogue, une Église dénominationnelle. Oh, frère, la synagogue de Satan. Alors, les œuvres dénominationnelles sont du diable. Pas les chrétiens maintenant, souvenez-vous, ils sont chrétiens, mais les dénominations en soi, très bien. Bon, avez-vous remarqué qu'il a dit, vous avez parmi vous des gens qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Maintenant, souvenez-vous, le grand ange, maintenant à qui est-ce qu'il adresse? Cette dernière église, cette porte ouverte entre les deux églises. Or, le premier âge de l'Église a été enseigné par qui? Paul. Allons maintenant à Romains 2, 29 et voyons ce qu'est un juif. Pour que vous soyez sûrs de le reconnaître, ce n'est pas mon idée à moi. Romains, le chapitre 2, au verset 29 de Romains. Très bien, nous y voilà. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce qu'un juif? Un esprit, un chrétien rempli du Saint-Esprit. Je sais que tu es ici après cet âge de la sanctification qui déclare avoir reçu le Saint-Esprit, mais il a dit qu'il n'en était rien. Ils ont dit qu'ils avaient le Saint-Esprit sans que les signes les accompagnent, alors il a déclaré, ils mentent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne peux pas faire de lui un menteur. Oh, mon frère, cette chose vous aveugle partout, partout. Voyez, oh là 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 là. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ceux qui prétendent être des chrétiens remplis de l'esprit, qu'ils disent la synagogue de l'organisation. Je livrerai ceux qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qui organise tout là-bas. Ils n'ont même pas encore reçu la révélation, voyez? Très bien. Je dirai, les gens qui se disent juifs se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Ils mentent. Voici, je vais les faire venir et se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ici même, on pourrait tout simplement introduire mon message de demain matin. C'est de la Vierge endormie, juste là. Pouvez-vous voir ça? C'était à quel moment? Au temps de la fin. Oh, quand elles sont sorties, voici, les voyez, elles sont justifiées par la foi, sanctifiées, justifié par le message de Luther, sanctifié par ici, tout en passant à côté de la porte ouverte. Vous le voyez? Justifié par la foi, par Luther, sanctifié par l'âge de Wesley, beaucoup de ces précieux Nazaréens, pèlerins de la sainteté méthodiste, Wesleyens, ainsi de suite, ils mènent toute une bonne vie pure, sanctifiée, ils croient avoir le Saint-Esprit. S'ils entendent un homme parler en langue ou quelque chose comme ça, ils rient de lui, se moquent de lui, ils disent « ça vient du diable ». Frère, vous avez scellé votre destin quand vous avez fait ça. Vous avez blasphémé le Saint-Esprit, ce qui est impardonnable. Eh bien, vous dites, nous appartenons à la première Église, peu importe à combien d'Églises vous appartenez, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, n'en retranchez pas et n'en ajoutez pas, c'est exact. Synagogue de Satan. J'espère que je ne vous blesse pas. Je déteste vraiment parler comme ça, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse à le faire. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Vous savez, je n'aime pas faire ça. Je me sens terriblement mal quand je le dis, mais je dois le dire. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me le fait dire. J'ai toujours détesté être tranchant avec les femmes. Je me sens... Une femme peut pleurer. Je me sens terriblement mal. Je déteste m'en prendre aux femmes, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui me pousse à le faire. Vous voyez? Une femme immorale. Oh là là. Je ne peux pas le supporter parce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à le faire. Le Saint-Esprit. Et je regarde ici dans la parole, je pense, Seigneur, si j'ai tort, montre-le-moi, ne me laisse pas faire ça, juste pour être comme ça. Les gens, j'aime les gens, tu le sais, je ne me laisse pas blesser personne, Dieu, tu sais que je ne ferai pas ça. Et le Saint-Esprit se lève et dit, tiens-toi sur cette parole, reste là, tiens-toi strictement à cette parole. Et je dis, oui, Seigneur, tu es mon meilleur ami, tu es le seul, tu es mon véritable ami, le seul qui va m'aider quand cette vie va tirer à sa fin, alors je vais rester avec toi, Seigneur. Mais voici, je ne veux pas vous laisser, s'il vous plaît. Ne me prenez pas mal quand je suis tranchant avec ces organisations et les autres choses. Bien avant de savoir quoi que ce soit à ce sujet, toute ma vie, j'étais tranchant avec elles. Je n'y ai jamais cru. C'est pour ça que je ne m'y associerai jamais. Et très bien, Dieu merci de m'avoir gardé éloigné de cela. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui disent qu'ils sont remplis de l'esprit et ne sont pas, mais mentent. Et je les ferai venir adorer à tes pieds. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de la Vierge endormie, quand il s'est levé? Maintenant, souvenez-vous comment s'appelait-elle? Il y en avait 10 qui sont sortis pour rencontrer l'époux, pas vrai? 5 étaient sages, avaient de l'huile dans leur lampe. Combien savent ce que l'huile représente dans la Bible? L'Esprit. Maintenant, aucune d'elles ne pouvait dire, « Tu n'es pas sanctifié, je ne suis pas. » Elles étaient toutes sanctifiées, chacune d'entre elles. Toutes sanctifiées, mais 5 étaient assez sages pour avoir la sagesse de la révélation, pour saisir cette porte, voyez, pour être remplies de l'Esprit. Elles avaient de l'huile dans leur lampe et les autres n'avaient pas d'huile. Et quand elles se réveillèrent, elles s'approchèrent d'elles, elles disent, « Oh, oh, donne-moi un peu de ton Saint-Esprit, de ton huile. Donne-moi un peu. » Elle a dit, « Oui, désolé, sœur, j'en ai juste assez pour moi. Je suis certaine, j'en ai pas trop. » Alors, et pendant qu'il a dit, « Allez prier. » Et pendant qu'elles étaient parties en chercher, l'époux est venu. Et elles sont parties au souper des noces. Et elles sont restées là où elles passeront par la période de tribulation. Et regardez juste un peu plus bas, quelques versets plus bas, vous verrez qu'elles continuent directement dans la période de tribulation. Maintenant, les vierges endormies, nous allons reprendre ça demain matin. Oui, je crois que ce serait un peu mieux si nous attendions pour ça, parce que nous arrivons ici, il est à peu près temps, très bien, déterminé. Maintenant, voyons un peu. Voici, je te livrerai. Ils ont découvert qu'elles étaient menteuses, qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Juste une petite chose, s'il vous plaît, pendant que nous sommes tous ensemble. Judas Iscariote, comme je l'ai dit hier soir, était le fils de la perdition. La Bible a dit, il est né le fils de la perdition. Et Jésus-Christ était né le fils de Dieu. Alors Dieu a vécu en Christ, pas vrai? Le Satan vivait en Judas. S'il était le fils de Dieu, né le fils de Dieu, le fils de Dieu incarné, alors Satan est né le fils de la perdition, il était l'incarné, le fils de la perdition. Satan, le diable. Alors, si vous le remarquez, il s'est joint à Jésus et est devenu l'un d'eux. Vous voyez? Maintenant, la raison pour laquelle il a fait cela, c'est pour en arriver à cette tromperie, afin de pouvoir venir en ce jour dans l'Église. Et Jésus a dit, « Ces synagogues sont de Satan. » Oh là là! Est-ce que ça vous a frappé? Ce sont des synagogues de Satan. Ce sont des Judas prétendant être chrétiens. Quelle était l'attraction principale de Judas? C'était l'argent. Le plus grand attrait de beaucoup des choses aujourd'hui, c'est l'argent. Regardez les assemblées de Dieu. Ils construisent ici un bâtiment de 6 millions de dollars. Ils enseignent, « Le Seigneur vient tout de suite. » Oh, les bombes sont dans les silos pour nous faire sauter. Ils construisent un bâtiment de 6 millions de dollars. Oh là là. Eh bien, ils sont riches. Ils n'ont besoin. Nous allons aborder ça demain soir, maintenant, si le Seigneur le veut. Maintenant, remarquez ici. Oh, regardez comme ces églises sont grandes, ces grandes organisations. Ils mettent leur argent en commun. Et oh, pitié, ils se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. Ils font même du financement, des associations de prêteurs parmi elles et tout le reste. Les églises faisant des prêts d'argent et ces choses. Frère, ça ne me semble pas très apostolique. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, donne-moi cela et garde tout ton argent. C'est vrai, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, c'est ce qu'ils avaient, la révélation de cela. Je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Très bien. Maintenant, nous découvrons ici qu'il s'agissait de synagogue de Satan. Comment? Comment pourrait-il l'être? Maintenant, Judas, quand il est venu, maintenant, regardez. Juste au moment où Jésus est arrivé sur la scène, Judas est arrivé sur la scène. Avez-vous remarqué ça? Et juste au moment où Jésus a quitté la scène, Judas a quitté la scène. Juste au moment où le Saint-Esprit est revenu sur la scène, Judas est revenu sur la scène. L'Esprit Antichrist à l'œuvre et aussi les fils de la désobéissance ne s'occupant pas de la Bible, mais s'occupant des dénominations, vous voyez. Ils en ont fait une synagogue. Et Jésus a dit ici, c'est la synagogue de Satan. Où? Elle s'est installée ici dans cet âge. Comment a-t-elle commencé ici? Par une organisation. C'est la même chose qu'elle a faite ici. Une synagogue de Satan. Vous saisissez? La synagogue de Satan. Il a dit, qui disent qu'ils sont remplis de l'Esprit. Comment pouvait-il dire ça? Judas, lorsqu'il était ici sur terre, rencontra Jésus, a confessé qu'il croyait en Jésus, et est devenu le trésorier. Il transportait tout l'argent. Pas vrai? Vous le savez tous. Alors, s'il croyait en Jésus-Christ, il a accepté faussement la justification. Pas vrai? Dans Romains 5, 1. Étant donc justifié par la foi. C'est vrai? Très bien. Bon, une autre chose dans Saint Jean 17, 17. Jésus les a sanctifiés par la vérité. Il a dit, ta parole est la vérité et il était la parole. Il leur a donné la puissance contre les esprits impurs de sortir et de faire ses services de guérison et de chasser les démons et de faire toutes sortes de miracles. Et quand ils sont revenus, Judas est avec eux. Maintenant, regardez les Nazaréens, les méthodistes, Wesleyens, ils sont revenus se réjouissant et dans l'allégresse, louant Dieu et criant parce que les démons leur étaient soumis. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et souvenez-vous, Judas était l'un d'entre eux. Vous voyez, il pouvait tromper l'Église même jusque-là. Il a travaillé dans ce sens, vous savez, mais quand s'en est venu à la Pentecôte, il a montré ses couleurs. C'est exactement ce qu'il a fait dans la primitive, dans l'Église méthodiste, ce qu'il a fait dans l'Église luthérienne et ce qu'il fait dans l'Église nazaréenne et les Églises de Dieu et les autres. Ils viennent jusqu'à la sanctification. Quand ça en arrive au baptême du Saint-Esprit, de parler en langue et d'avoir des signes et des prodiges, ils sont condamnés cela. Ils suivront jusqu'à la guérison divine. Bien, sûr, Judas l'a fait aussi. Mais quand il y a beaucoup de guérison divine, ils sont à l'œuvre aujourd'hui, frères. Ils sont debout là pendant 2 heures. Ils disent, vos récoltes vont brûler si vous ne leur donnez pas 50 $ par nuit chacun. Et tout ce genre de choses, c'est le diable. Certainement, je crois en la guérison divine de tout mon cœur, mais ces choses sont du diable. Absolument, c'est du diable. Peu importe ce que vous pouvez faire de plus, Judas a aussi chassé les démons. Jésus a dit, plusieurs viendront en moi. En ce jour-là, ils diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Et fait de grandes œuvres. Il a dit, si tu l'as fait, je n'en sais rien. Retirez-vous de moi. Ouvrier d'iniquité, je ne vous connaissais pas, certainement. Ô frère, étroite est la porte et resserrez le chemin. Il n'y en aura que peu qui le trouveront. Nous parlons de ce quelque parce que nous sommes dans le dernier âge où il ne doit y avoir que quelques-uns. Recevez-le, s'il vous plaît, mes frères. Ne croyez pas que je suis ici, je préférerais. Si c'était moi, pour moi, je pourrais faire des compromis avec moi-même et dire, prenons les assemblées de Dieu ou un quelconque mouvement, rejoignons-le et allons avec eux. Mais ô frère, malheur à moi si je fais ça. Malheur à moi. Je connais mieux que ça. Dieu m'enverra en enfer pour avoir fait une chose pareille. Oui, monsieur, si j'en ai, je dois sceller mon témoignage avec ma vie. Je n'aurai simplement qu'à le sceller, c'est tout. Parce qu'il y a quelque chose en moi, je ne pourrais pas faire ça plus que n'importe quoi d'autre au monde. Je sais que c'est la vérité. Je dois m'en tenir à ce qui est la vérité. La Bible le confirme. Les organisations sont contre cela, mais la Bible dit que c'est juste que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que cela sienne soit reconnue pour vrai. C'est la vérité, c'est ça. Tenez-vous-en à ça simplement. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Très bien. Et ils sauront se prosterner à tes pieds et savoir que je t'ai aimé parce que tu as gardé les paroles de ma patience. Moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation. Regardez maintenant pour montrer ce que ce n'est pas l'âge méthodiste dont je parle, mais c'est le chevauchement. Regardez, êtes-vous prêt à l'entendre? Tout le monde, écoute attentivement. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai le petit reste de l'heure de la tentation. Quand l'Église va en venir à un point où vous allez devoir faire partie de cette organisation ou vous allez y goûter, frère. Voilà tout. Vous allez soit vous organiser, soit prendre la marque de la bête, soit aller dans la dénomination, ce qui est de prendre la marque de la bête, parce que c'est un boycottage, voyez, qui va venir sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Maintenant, cette grande tentation, l'heure de la tentation qui viendra éprouver le monde entier, elle entre dans la tribulation. Dans quelques minutes, nous allons le voir, elle entre dans la tribulation, et la tribulation n'est pas venue au temps de Wesley. Alors, dans quel âge sommes-nous? Pourquoi cette porte est-elle ouverte? C'est entre Wesley et l'Église se dirige en ce moment. Elle y est déjà dans l'âge de Laodicée. Mais ce petit endroit juste ici, au cours des 35-40 dernières années, a été une porte ouverte, placée juste devant les gens pour qu'ils y entrent, et Dieu va prendre le reste et le sceller. Ils vont devenir tièdes, et il les vomira de sa bouche. L'œuvre sera abrégée, l'Église sera enlevée, et voici l'Antichrist qui s'avance pour la destruction. C'est parfait, ça correspond à toute la Bible, de toutes parts. Très bien, bon. Et voici aussi l'apparition de la Vierge endormie. Voici la preuve que le dernier des âges de l'Église s'installe à la première partie de la Pentecôte, car il entre dans la grande tribulation qui va venir dans le qui n'est pas venu dans l'âge de Wesley. Verset 11. Très bien. La couronne de vie. Le verset 11 dit, « Voici, je viens bientôt. » Quoi, viens bientôt après ceci maintenant? Voyez. Voici, je retiens ce que tu as, tenez-vous-y, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Qu'est-ce qu'une couronne? C'est une couronne signifie que vous avez un domaine. Vous êtes un roi si vous êtes couronné. Voyez? Et nous sommes fils de Dieu quand nous sommes couronnés de la vie éternelle et notre domaine est la terre. Faites de vous des sacrificateurs et des rois pour Dieu, pas vrai? Alors voilà, et dans la Nouvelle-Jérusalem, comment les rois de la terre apportent même leur gloire dans la ville de Jérusalem? Oh, c'est merveilleux. Si vous voulez prendre ça, vous voyez, c'est comme des étoiles qui brillent des couronnes. Et Daniel 12:3 en donne une bonne grande description de cela, si vous voulez bien le prendre en note. Nous avons peut-être le temps de le prendre pour quelques minutes. Prenons Daniel, ce qu'il dit ici dans le chapitre 12 de Daniel. Très bien. Commençons par le premier chapitre, le chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michael. Voyez, vous savez qui c'est. Se lèvera le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Qu'est-ce que c'est juste après ceci? La tribulation. Tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque est trouvé écrit dans le livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. La couronne. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Oh, frère, voilà votre couronne, cette glorieuse couronne de vie éternelle. Une couronne de vie éternelle. Verset 12, rapidement, juste avant que nous... Et je pense que nous allons ici après cela. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Nous allons maintenant passer cela rapidement parce que j'ai déjà dépassé de 5 minutes le temps que nous avions. Mais vous pouvez dormir un peu demain matin. Maman, laisse-les dormir. Vous vous levez facilement, mais pour papa, c'est plus difficile de se lever. Mais laissez-le dormir un peu. Sortez doucement, préparez-lui son café et quoi qu'il prend, et il sera de bonne humeur. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Oh, prenons les choses mot à mot, juste une minute. Pouvez-vous me supporter encore un peu, juste un peu? Je sais qu'il fait chaud, vous savez qu'il fait chaud ici, mais voyons voir. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Colonne. Une colonne ou une fondation. une fondation dans le temple de la maison ou la maison de Dieu, le temple de mon Dieu ou la maison de mon Dieu. C'est une colonne, la fondation. Ce sont ceux qui ont pris la parole qu'ils ont entendue au verset 8 et qui sont retournés à la fondation. Maintenant, prenons Éphésiens 2, 19 à l'église d'Éphèse. Vous savez, vous devez retourner à Éphèse. C'était le commencement, pas vrai? Retournons à Éphèse où était Paul, l'église qu'il a établie, et voyons où nous en sommes. Très bien, l'église d'Éphèse. Revenons maintenant en arrière et voyons ce qu'est cette fondation là-bas. Et voyons ce que Paul a dit au sujet de la fondation à l'époque de la première église là-bas. Maintenant, il parle aux Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des luthériens ou des baptistes. Maintenant, attendez, je me suis embrouillé, n'est-ce pas? Mais vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout est entré par la porte, Jésus. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. En d'autres termes, une partie de la fondation. Que vais-je lui donner? Je mettrai en lui la doctrine des apôtres et des prophètes. Comme au commencement, je lui donnerai la révélation. Qu'ont dit les prophètes à son sujet? Il est conseillé, le prince de la paix, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. C'est ce qu'ils ont dit, les prophètes, les apôtres. Et celui qui peut vaincre toutes ces synagogues de Satan, demeurer libre et garder son regard droit sur la porte, je ferai de lui une colonne. Je vais le remettre dans le fondement de ma parole, dans la maison de mon Dieu. Oh là là! Je le mettrai là, dans cette colonne, dans la fondation où vous restez dans la parole. Amen. J'aime ça, mon frère. C'est bon. J'ai peut-être un comportement bizarre, mais je me sens bien, très bien. Fais de lui une... Celui qui vaincra, ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Qu'est-ce que c'est? Si c'est une colonne, il n'en sortira plus. Il est l'épouse. C'est vrai. Comme l'âge d'Éphèse, comme Paul leur avait enseigné dans les Actes, maintenant, attendez une minute. Si vous voulez être une colonne, j'avais une autre écriture ici que je voulais vous partager avant que nous arrivions à l'épouse. Maintenant, s'il veut être une colonne, vous devez retourner à Éphèse. Vous retournez à l'âge où Paul était. Et Paul, l'ange d'Éphèse, qui a été le commencement de l'Église, la fondation, il leur a enseigné, s'ils étaient baptisés autrement que par le nom de Jésus-Christ, il fallait qu'ils soient baptisés à nouveau. C'est vrai, Acte 9 ou 5-19, ou 19-5 plutôt. Dans Galates 1-8, il a dit, « Si un ange du ciel vous annonce quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. » Il était aussi l'épouse qui était dans le temple. Maintenant, prenons Apocalypse, le chapitre 7 de l'Apocalypse. Voyons s'il était l'épouse, chapitre 7 de l'Apocalypse. Maintenant, nous parlons ici du reste d'Israël, les 144 000 et ainsi de suite, mais changeons de sujet pour un moment et allons au verset du verset 12 ici. « Dites donc, c'est une réunion de la Pentecôte, là. C'est le peuple qui était... Regardez, bien, nous allons commencer ici au verset 9, parce que le premier est pour Israël. Il y avait 144 000, deux d'entre eux scellés, et ce à quoi nous allons arriver demain. Et après cela, je regardais, et voici une grande foule dont personne ne pouvait compter. Maintenant, souvenez-vous, de 4 à 8, c'est Israël qui était les eunuques des gardes du temple. Voyez, on va arriver à cela demain matin, si Dieu le veut. Maintenant, il y scelle à ce moment-là les 12 tribus. De la tribu de Juda, il en a scellé 12. De Ruben, il en a scellé 12. De Gad, il en a scellé 12. De Lévi, de Zabulon et de Benjamin, 12. Et combien y a-t-il de tribus d'Israël? Eh bien, combien font 12 fois 12? 144 000. Ils étaient tous des enfants d'Israël. Jean les connaissait tous, chacun d'eux. C'était un juif. Après cela, un grand nombre que personne ne pouvait compter. Voici les gens des nations qui arrivent. De toute nation, de toute tribu, de toute langue, se tenaient devant Dieu et l'agneau vêtu de robes blanches et des palmes dans la main. Ce sont ces pauvres créatures qui sont mortes là-bas et les lions les ont dévorées et tout le reste pour cet évangile du Saint-Esprit qui est sanglant. des dizaines de milliers de petits-enfants avec la tête éclatée dans les rues et tout le reste, les voilà, des robes blanches et des palmes à la main. Oh là là! Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Écoutez, si vous ne pensez pas que c'est une réunion pentecôtiste, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la force, la puissance, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Phew, on dirait qu'il y a une réunion de camp là-bas, n'est-ce pas? L'un des anciens qui prit la parole m'a demandé, on m'a dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Maintenant, tu es juif, tu connaissais les 12 tribus. Maintenant, qui sont ces gens? D'où sont-ils venus? Ils ont des robes blanches. D'où sont-ils venus? Pas de la tribu de Benjamin et des autres. Qui sont ces gens là-bas? Jean dit, je dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Ça m'a frappé. Il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis des grandes tribulations, qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ça, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, dans la maison, et le servent jour et nuit dans le temple, et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. On dirait qu'ils ont commencé à avoir un peu faim, non? Ils n'auront plus faim. Gloire! Ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, plus jamais, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira dans les sources de l'eau de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La voilà. Voilà l'épouse. Oh là là. Comme c'est beau. L'épouse. Voyons ce qu'il a dit maintenant pour être sûr de ne pas le manquer maintenant, le 12. Celui qui vaincra sera une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira plus. L'épouse se tenant là avec l'époux. Oh, si nous avions le temps de prendre ce que j'ai reçu, c'est pour le livre là-bas, dans l'Apocalypse. Il est dit, tous les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est comme la tribu de Lévi, tous les autres lui payaient la dîme, voyez-vous. D'une nouvelle lune à l'autre, d'un sabbat à l'autre, ils montaient pour adorer. Quel jour ce sera? Très bien. Et je vais, voyons voir, n'en sortira plus. Très bien. Une colonne dans le temple de mon Dieu, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Maintenant, quel est le nom de Dieu? Jésus. Si vous voulez prendre cela en note, il se fait un peu tard. Jésus, Éphésiens 3:15, dit au ciel et sur la terre, tout s'appelle Jésus, vous voyez? Très bien, d'accord? Bon, très bien. Et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, je vais mettre sur lui. Si vous voyez, c'est le même nom, vous devriez déjà l'avoir saisi, voyez-vous? Je vais mettre sur lui le nom de la ville de mon Dieu. La ville, puis il continue, il dit, qui est la Nouvelle Jérusalem. Voyez? La Nouvelle Jérusalem. Je vais mettre sur lui la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, l'épouse ou l'Église est la Nouvelle Jérusalem. Combien savent ça? L'Église elle-même est la Nouvelle Jérusalem. Le croyez-vous? Prouvons-le maintenant, Apocalypse 21, je crois, voilà ce que je veux. Très bien, regardons là-dedans pour qu'on puisse vous montrer. La Bible dit, éprouvez toutes choses, voyez, maintenant, Apocalypse 21. Oh, écoutez ceci, oui, ceci, écoutez ça, vous voulez voir ce que la nouvelle ville, le nom de Dieu? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. La nouvelle Église est l'Église des nations, l'épouse. L'épouse, ce sont les gens des nations, et les gens des nations ont son nom. Il a fait sortir un peuple des nations à cause de son nom. Vous croyez cela? Si vous ne croyez pas, consultez Acte 15, 14 et vous allez voir Acte 15, 14. Si vous voulez bien le prendre juste une seconde, nous allons. Alors, vous allez Acte chapitre 15 et le verset 14. Je crois que nous allons le trouver. Maintenant, nous sommes sur le point de terminer. Acte 15 et le verset 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Très bien, la voilà. Oh. Maintenant, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il reste. Et maintenant, nous allons terminer en disant que c'est lui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. C'est la même chose, Jésus, 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 et l'épouse mariée à Jésus, fidèle, Madame Jésus, et ainsi de suite, vous voyez. Il y a de très belles femmes dans cette salle ce soir, très belles, mais il y en a une seule d'elles qui est à moi. Et elle porte mon nom. J'espère que vous avez saisi cela. Elle porte mon nom, tout comme son épouse, très bien. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, qui est la Nouvelle Jérusalem qui descend, ou la ville de mon Dieu, qui est la Nouvelle Jérusalem qui descend de Dieu, descend du ciel auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Je ferais mieux de laisser ça tranquille, n'est-ce pas? Très bien. Remarquez, lui est au singulier. Maintenant, si vous voulez bien revenir à Apocalypse 2:17, juste une minute, juste pour le revoir une seconde, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou qui est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Vous savez, j'aime chanter dans l'esprit après une réunion où c'était tranchant et tout le reste, pas vous? Oh, comme j'aime être dans l'esprit après cela. La parole, voyez, la parole est tombée maintenant. La seule chose dont elle a besoin, c'est un peu d'humidité. Voyez, quelques louanges, puis cela commence à grandir, vous voyez. Oh, ne l'aimez-vous pas? Oh, levez les mains et chantons ça. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Oh, courbons la tête et disons, Père, nous t'aimons, oh, comme nous t'aimons. Nous te remercions tellement, Seigneur. Oh, notre pauvre cœur humain ne peut pas exprimer ce que nous ressentons nous-mêmes, car tu nous as lavés dans ton propre sang. Nous étions des étrangers, Seigneur. Nous aimions les choses du monde et nous étions tous corrompus dans les choses du monde. Et tu es descendu par ta grâce et tu as étendu tes précieuses mains saintes dans la boue du péché. Tu nous as élus, tu nous as choisis, tu nous as lavés, tu nous as nettoyés, tu as mis un nouvel esprit en nous et tu as mis notre affection sur les choses d'en haut, comme nous t'aimons, Seigneur. Dans cet âge séduit, s'il n'y a plus rien d'autre dans le monde pour nous, Seigneur, il n'y a plus d'espoir pour le monde. C'est le temps de la fin. Nous voyons dans la Bible que tous les âges sont passés. Nous sommes maintenant à la fin. Nous partons très bientôt. Avant longtemps, Jésus va venir. Oh Dieu, enflamme notre cœur. Ne nous laisse pas s'arrêter. Je pense que ferait le grand saint Paul, s'il était ici ce soir, qu'il voyait ces choses telles qu'elles sont, comme à cet homme, s'il l'aurait mis en prison avant de le lever du jour, il serait ici en train de dire aux gens de se préparer pour la venue du Seigneur. En cette heure, Seigneur, il y a beaucoup de malades, car il y a des mouchoirs et des requêtes déposés ici. Je prie pour que tu guérisses chacun d'eux, Père. Nous savons que cela fait partie de ton ministère, que tu prouves infailliblement être la vérité, les signes qui accompagnent le croyant. Sur le corps de Paul, il prenait des mouchoirs et des linges et les envoyait aux malades. Et des esprits impurs les quittaient et ils ont été guéris parce que les gens croyaient au Dieu vivant. Accorde-le encore ce soir, Père, comme je te l'ai confié par Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, je prie que tu prennes notre âme dans ta main, nous lave, nous repasse, parce qu'il est dit, tu viens pour une église sans tache ni ride, que le fer à repasser chaud du Saint-Esprit enlève toutes nos rides et que nous soyons suspendus, prêts pour la venue du Fils de l'homme. Maintenant, Père, nous prions pour que tes bénédictions reposent sur nous. Adore avec nous, Père. Nous t'adorons. Nous nous levons ce soir et nous te donnons nos cœurs, nous.
Consacre-moi maintenant à ton service, Seigneur, par
la puissance de la grâce divine. Laisse mon âme regarder vers le haut avec un espoir inébranlable et que ma volonté soit perdue en toi. Attire-moi plus près, Seigneur béni, à la croix où tu es mort. Attire-moi plus près, Seigneur béni, plus près de ton précieux côté sanglant. Oh, le pur délice d'une seule heure que je passe devant ton trône. Quand je m'agenouille en prière et avec toi, mon Dieu, je communique comme ami avec un ami. Attire-moi plus près, Seigneur béni, à la croix où tu es mort. Attire-moi plus près. Plus près, Seigneur béni, de ton précieux côté sanglant. Il y a des profondeurs d'amour que je ne peux pas connaître jusqu'à ce que je traverse la mer étroite. Il y a des niveaux de joie que je ne peux pas atteindre jusqu'à ce que je repose en paix avec toi. Adorons-le maintenant. Attire-moi plus près. Plus près, Seigneur béni, à la croix où tu es mort. Attire-moi plus près. Plus près, Seigneur béni, de ton précieux côté sanglant. Attire-moi plus près. Plus près, Seigneur béni, à la croix où tu es mort. Attire-moi plus près. Plus près, Seigneur béni, de ton précieux côté sanglant. Inclinons la tête. Oh Seigneur, comme nous t'aimons, Seigneur Jésus. Comme nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité d'être réunis ensemble, Seigneur Jésus. Et d'entendre cette parole infaillible de Dieu. Seigneur, nous sommes si indignes, Père, de penser que de l'endroit où tu nous as sortis, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as changé notre nature même. Tu l'as enlevé de nous et tu nous as amené dans ce doux Saint-Esprit, cet amour de Dieu. Seigneur, comme nous sommes reconnaissants. Seigneur, je pense que personne ici n'est. Et ceux qui sont rentrés dans l'arche, Seigneur.
Et
il avait dit qu'il allait pleuvoir, il avait fermé la porte. Et Père, il nous fait. Et il disait, es-tu certain? Noé a dit, le prophète a dit qu'il a pris cette. Il a dit qu'il allait pleuvoir. Et ils ont dit, comment le sais-tu? Parce que Dieu l'a dit. Et Père, alors que nous sommes ici aujourd'hui, nous savons que ces choses sont vraies. Seigneur, parce que tu l'as dit. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu Tout-Puissant devant nous. C'était toi, Seigneur. Nous regardons au-delà de ce voile. Nous regardons au-delà de ce voile et nous voyons Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous savons qu'il va pleuvoir parce que tu l'as dit. Et Père, je prie que tu sois avec chacun, avec nous aujourd'hui, Seigneur. Quel privilège cela est de se tenir ici, Seigneur. De se tenir, Seigneur. Seigneur, je pense seulement de l'amour. Comme ton épouse qui entre. Ce reflet de Jésus-Christ qui, lui, à travers elle, dans chacune d'entre elles. Seigneur, où pouvons-nous nous recevoir cela? Nous ne pouvons pas le recevoir de nulle part ailleurs. C'est cette parole seulement. Nous ne pouvons pas aller nulle part ailleurs. C'est ce message qui est la vérité. Et Père, nous le voyons manifester dans ton peuple. Oh Seigneur, nous sommes si reconnaissants. Oh, nous t'aimons, Père. Sois avec chacun d'entre nous et qu'on puisse se préparer pour le prochain message, le message de la Odyssée. Oh, Seigneur, comment grand est ta parole et nous avons tellement hâte et comment nous en avons besoin. C'est la vérité, c'est notre ligne de vie. Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, nous avons la nostalgie de Frère Joseph, Seigneur. Comment nous te remercions pour lui, Sœur Valérie, Frère Billy Paul et Sœur Louis. Oh, Seigneur, ils sont là-bas en train de se reposer. Et comme Frère Joseph s'avance devant toi, Seigneur. Seigneur, je pense à... Lorsqu'il pense à cette cuillère dans cette mer, nous avons une partie... portion de cette mer, mais c'est la même puissance, même si c'est la grosseur d'une cuillère à thé, c'est la même puissance, Seigneur. Et Seigneur, je pense comment c'est grand de penser que nous avons cela. Et je pensais à Frère Joseph et qu'il avait tout un gallon entier. Oh, Père, aide-le, donne-lui plus, Seigneur. Révèle-lui les choses, Seigneur, que tu veux qu'il sache. Et je pense aussi à ce message et comment tu as dit que lorsque Dieu veut parler, il envoie un prophète. Et Seigneur, si tu ne voulais pas parler, il n'y aurait pas un prophète sur la terre. Alors, Père, nous savons s'il y a quoi que ce soit qui doit être dit, Seigneur. Tu vas lui montrer et nous te remercions pour ces choses, Seigneur. Nous t'aimons. Nous prions que tu sois avec eux et chacun en ce jour. Nous te remercions dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Nearer, blessed Lord, to the cross, where thou hast gone, draw me near, prepare, Seigneur, béni de ton précieux côté sanglant.
Comme Frère Branham a prié, Seigneur, prends ce fer à repasser et repasse tout de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche qui vient, je sais que beaucoup de gens ont demandé à propos de la communion. Gardez seulement vos yeux sur le site web. Tout ce qui doit être fait sera fait, et les plans et tout à propos de cela. Gardez seulement vos yeux sur le site Internet. C'est comme ça que vous serez. Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous et vous renforce jusqu'à ce que nous revoyons. Alors que nous terminons la réunion.
La réunion est terminée.
Paix à vous.
Seigneur béni de ton précieux gloire, tes semblants,
paix à chacun de vous.